On est très heureux de vous accueillir ce soir. Merci encore à Serge Benahim, le président de la communauté de la Rivière Roquette, qu'on voudrait remercier, qu'on remercie en applaudissant, qui est là, je sais, et qui nous accueille comme chaque fois avec gentillesse, simplicité, et c'est quelque chose de tellement appréciable. Alors, ce soir, on a la chance d'avoir avec nous donc Jérémy Brebi, qui est un ami de longue date que vous connaissez sûrement toutes et tous. Je ne vais pas faire le descriptif de tout son CV, il est ce qu'il est, tout le monde le connaît. Et on a décidé ce soir de faire un petit peu différemment parce qu'il a énormément de choses à vous dire. Alors les premières conférences qu'on a fait ensemble, on les a fait en binôme. On les a fait en binôme à Tel Aviv plusieurs fois. Et puis, ce soir, eh bien, je voudrais lui laisser la parole. Il a beaucoup de choses à partager avec vous. Jérémy, tu es pour beaucoup un petit peu aujourd'hui le symbole de la capacité que l'on peut avoir d'être dans un mouvement dans tous les domaines, aussi bien dans un domaine qui est celui des nouvelles technologies dans lequel aujourd'hui, eh bien, non seulement tu as été plus qu'un précurseur, mais quelqu'un qui a été au début de l'histoire d'Internet et toujours à l'intérieur de cette histoire. Et je crois que c'est quelque chose quand même qui est du domaine du rare, parce que ceux qui ont commencé, on les retrouve peut-être pas souvent un peu plus tard, avec en même temps une démarche qui n'est pas juste une démarche au quotidien dans le monde des affaires, mais aussi dans le monde des affaires spirituelles, puisque eh bien, aujourd'hui Jérémy est installé à Bnei Brak, avec son épouse, ses 12 enfants, et qu'il consacre une bonne partie de son temps aussi à l'étude, tout en étant toujours aussi impliqué dans le monde de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, on en voit les incidences, on sait quels sont les enjeux, et sans plus tarder, je te laisse la parole, et je suis sûr qu'on va prendre énormément de plaisir à entendre tout ce que tu as partagé avec nous. RF Tov, merci à vous toutes et à vous tous d'être là avec nous ce soir.
Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Le micro fonctionne?
Allô, allô?
Ouais. Je sais pas si ça change quelque chose en fait. Je parle dans un micro. Voilà, on va essayer. Donc ça dure 4h30 à peu près. Non, je plaisante. Alors, merci pour cet honneur, vous êtes tous là. En fait, je suis venu à Paris pour quelques rendez-vous d'affaires et j'ai dit, bah, tant qu'à faire, on va essayer d'organiser cette conférence. Et Rav Lemel a organisé cet événement en quelques jours, Rav Lemel et son équipe, donc merci beaucoup Rav Lemel. Pour la petite histoire, donc en fait, moi je suis connecté depuis 23 ans à Internet. Je travaille depuis 23 ans à Internet, donc moi je fais partie des, comme le Rav Lemel a expliqué, des tout premiers à avoir découvert Internet en 1994, à peu près 6 ans avant que le grand public arrive sur Internet. Et à l'époque, en fait, Internet c'était quelque chose d'assez particulier, puisqu'en fait on payait à peu près 80 francs l'heure de connexion, donc 12 euros l'heure de connexion, 12-13 euros. Et donc ce qu'on faisait en fait sur Internet, c'est on se connectait très très peu. On se connectait 10 minutes, on allait relever des messages et on se déconnectait. On se connectait, on allait chercher une information et on se déconnectait. Et ça, c'est l'Internet que j'ai connu pendant les premières années, puisque c'est effectivement un Internet très très cher. L'ère de l'Internet illimité est arrivée après. Dans les dernières années, depuis les années 2010, j'ai investi avec plusieurs associés dans plus de 360 entreprises, start-up, du monde de l'Internet. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de ce sujet qui est Internet et les différentes épreuves et différentes manières d'analyser cette révolution une vue de juif. Aujourd'hui, la technologie, j'ai pas besoin de vous dire ce que ça amène. Le monde a changé. On a accès à la connaissance d'une manière démesurée. Moi, je me rappelle quand j'avais 16 ans, ma mère voulait m'acheter une encyclopédie. Je sais pas si vous avez, c'était des livres, hein. Et ça coûtait 11 000 francs. On venait nous la vendre à la maison. La personne revenait 4-5 fois pour nous vendre l'encyclopédie. Et quand on l'achetait, on comprenait absolument rien de ce qu'il y avait écrit à l'intérieur. C'était écrit par des spécialistes, par des professeurs, etc. Et qui étaient en train d'écrire, je pense, pour eux-mêmes et qui n'étaient pas du tout en train d'écrire pour les autres. Aujourd'hui, on a accès à Wikipédia, qui est effectivement quelque chose d'assez simple. On veut à peu près comprendre n'importe quel sujet. On se connecte sur Wikipédia, on y a accès. N'importe où dans le monde. On a les sites internet des Rabbanim, les Hava, Torah Box, Kol HaLashon, enfin plein de choses, on peut étudier Dafyomi, plein de sujets juifs sur internet. Donc ça a un avantage, beaucoup de juifs très très éloignés ont découvert le judaïsme grâce à internet, puisque c'est dur de ouvrir la porte d'une synagogue et de venir voir comment ça se passe, mais aller voir une vidéo sur YouTube ou aller sur Torah Box, ça coûte rien et on est seul chez soi. On a la possibilité aujourd'hui d'avoir la réponse à la moindre question qu'on peut avoir. On a Rabbin Google qui peut répondre à n'importe quelle de nos questions, Rabbin Google. Nos amis aussi sur les réseaux sociaux peuvent nous aider à trouver le meilleur resto, à trouver plein de choses potentiellement intéressantes. On a la possibilité de se former aussi sur Internet. Il y a des sujets comme la Khan Academy, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un service assez exceptionnel qui permet d'étudier plein de sujets. Dans le monde médical, pareil, le monde médical a été transformé par le fait que les médecins maintenant sont tous connectés ensemble. On peut trouver un candidat pour une greffe en quelques minutes partout dans le monde, etc. Et aujourd'hui, même pareil, l'automobile est en train de se bouleverser. On est en train de parler de l'automobile autonome dans 7 ans, 8 ans, 10 ans. Maximum, vous allez voir dans la rue des véhicules qui conduisent tout seuls. C'est pas de la science-fiction. À une époque, c'était la science-fiction. Là, vous avez des dizaines de sociétés qui travaillent maintenant tous les jours pour aller créer des technologies qui vont permettre aux gens de gagner encore plus de temps. Parce que c'est ça, en fait, finalement. On veut nous faire gagner du temps. Aujourd'hui, on peut trouver un taxi dans Paris. Même les taxis sont devenus plus efficaces grâce à Uber qui est à côté. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Donc voilà, au final, il y a plein de belles choses dans la technologie et je suis bien placé pour le savoir, je suis un fan de technologie. Mais en fait, l'analyse qu'on doit avoir ce soir, c'est est-ce que le sujet de l'Internet illimité, la nouvelle ère de l'Internet qui fait qu'aujourd'hui on est connecté en permanence au réseau, est-ce que c'est quelque chose qui est finalement une bonne chose? Le fait d'avoir accès à des services qui peuvent nous rendre service à des moments donnés, évidemment, c'est une bonne chose. Le fait de pouvoir consulter son compte en banque, de pouvoir se former à tel et tel sujet, etc., etc., c'est évidemment une bonne chose. Par contre, la vraie question, c'est est-ce que le fait d'être connecté en permanence, à n'importe quel moment de sa journée, est-ce que ça nous rend des gens meilleurs? Des gens meilleurs, ça peut être des gens meilleurs dans nos midot, donc dans notre trait caractère. Est-ce qu'on est plus efficace dans notre travail? Est-ce qu'on est devenu plus intelligent? Je sais pas, toutes les questions avec plus à l'intérieur. Est-ce qu'on est en train de passer à un niveau supérieur en étant connecté en permanence? Finalement, c'est une question. Un jour, j'ai parlé de ce sujet-là. J'avais écrit un post sur LinkedIn un peu sur ce sujet. Et quelqu'un qui n'était pas juif m'a dit, ça, c'est une question de religieux. De se poser des questions pour savoir si quelque chose est utile ou pas. Et effectivement, je pense que c'est une question religieuse, une question de juif, finalement. C'est une question de se dire, est-ce que effectivement, quand je fais un acte, quand je fais n'importe quelle action, est-ce que je suis en train effectivement d'améliorer ma vie ou est-ce que je ne suis pas juste en train de m'engouffrer dans une impasse ou dans quelque chose qui va me poser des problèmes? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les plus grands sages du judaïsme auxquels font référence l'ensemble des étudiants de Torah, d'accord, quand on étudie le Talmud, etc., sont des gens qui vivaient avec quelques parchemins sous le bras, qui voyageaient de pays en pays à l'époque de l'exil, et passaient d'Espagne en Égypte, d'Égypte en Israël, d'Israël en Égypte à nouveau, etc. Enfin, gens qui voyageaient beaucoup, mais c'était des gens qui finalement étaient connectés au monde, mais qui avaient accès à peu d'informations, mais qui arrivait à analyser extrêmement en profondeur la moindre information qu'il possédait. D'accord? Extrêmement en profondeur. Et aujourd'hui encore, quand on va aller analyser n'importe quel sujet de halakha, de loi juive, on ne va pas aller essayer de prendre comme référence le rabbin super connecté qui a accès à plein de bases de données. On va aller prendre comme référence des gens qui ont en fait réussi à intégrer dans leur mémoire énormément, une énorme quantité d'informations, et qui arrivent finalement à l'ingurgiter et à la travailler pour arriver à en sortir quelque chose. Aujourd'hui, en fait, le fait d'être 100% connecté est quelque chose qui est complètement nouveau. D'accord ? Comme j'ai expliqué à l'époque, au tout début d'Internet, on était connecté que quelques minutes par jour, ou voilà, comme je vous disais, en général, on faisait 10 heures par mois, juste pour vous imaginer le truc. Donc en fait, le standard de vie, c'était de ne pas être connecté. Aujourd'hui, le standard de vie, c'est d'être connecté 100% de notre temps, sauf Shabbat, j'espère, quelques heures pendant lesquelles on dort, et même en général, on garde son smartphone à côté. Mais aujourd'hui, finalement, en fait, si on voit dans notre vie, notre vie est 100% connectée. On va aller communiquer en se levant, on communique en marchant, on communique avant de dormir, on communique pendant son travail, on communique aux toilettes, on communique bientôt avec nos smartphones waterproof. Il y en a certains qui sont déjà waterproof, mais ça va devenir la norme. Donc les téléphones vont être, vous allez pouvoir être sous la douche avec, ou dans votre baignoire, ou à la plage. On communique pendant notre prière, très souvent, je vois pendant la tefila, on est en train de vérifier pas mal de choses. Excusez-moi, je vais juste arrêter le smartphone qui est devant moi, parce qu'en fait sur Facebook ça marche pas du tout. Excusez-moi, comme quoi la technologie, ça n'a pas super l'avantage. Bon, désolé, donc pour ceux qui voulaient suivre sur Facebook, il fallait venir, tant pis. Voilà. C'est enregistré quand même, j'enregistre avec un vieil appareil des années 30. On communique quand nos enfants nous parlent, on communique quand on est sur la route, on communique quand on fait la queue, on communique en traversant la route, on communique donc tout le temps. Tout le temps. Moi, je suis étonné de voir chaque matin, et même à Bnei Brak, où j'habite, je suis étonné de voir chaque matin des parents qui sont en permanence au téléphone alors que leurs enfants sont à côté et qui sont en permanence effectivement en train de discuter avec d'autres gens. Les enfants sont là, on a l'occasion de leur parler, on a l'occasion d'échanger, on a l'occasion de les écouter et on est là en permanence à vouloir communiquer. Quand Shabbat sort, immédiatement, on allume son téléphone pour voir si le monde ne s'est pas effondré. C'est très très vite. J'ai vu, j'étais au Brésil avec quelques personnes qui sont dans la salle d'ailleurs il y a quelques semaines, et il y avait 1000 juifs du monde entier, un très très bel événement avec Rav Lemel aussi d'ailleurs. Et c'est très très rigolo de voir qu'en fait, avant, la Havdalah était à peine terminée, que tous les téléphones étaient déjà réallumés. Et tout le monde était déjà replongé à l'intérieur, alors qu'on avait passé un Shabbat exceptionnel. Et tout le monde était repassé à l'intérieur immédiatement. Donc en fait, on est passé dans un mode où on communique absolument tout le temps. On s'en rend pas compte, parce qu'en fait, on pense que c'est bien de communiquer, c'est bien effectivement en permanence d'échanger. Le vrai sujet, c'est aujourd'hui, en fait, de savoir. Alors, je ne sais pas si vous savez combien de fois on allume son téléphone par jour, en moyenne, son smartphone. Est-ce que vous avez une idée ? 50 ? 100 ? 150 ? Ah, bravo, super. Donc, il y a Marc Loquette, 110, 150. Il y a deux avis. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Entre 110 et 150 fois par jour. C'est le nombre de fois que l'on vérifie son téléphone par jour. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, si vous voyez, vous avez un voisin qui va vérifier sa boîte aux lettres 110 fois par jour, qu'est-ce que vous faites ? Alors moi, ce que j'ai dit, j'ai essayé d'imaginer la situation. Je me dis, un, je ferme la porte à double tour. Deux, j'appelle la police et un médecin. Et voilà, et effectivement, je m'inquiète beaucoup. Et bon, effectivement, pourquoi effectivement je vais m'inquiéter ? Parce que effectivement, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a à faire ? Il attend quoi de si urgent ? Alors bon, alors s'il le fait ça un seul jour, on peut dire, bon, il est très stressé, il attend une nouvelle. S'il fait ça deux jours, on va dire, bon, il n'a pas reçu sa nouvelle. S'il fait ça après deux mois, là, on dit vraiment, il a un problème. Aujourd'hui, c'est entre 110 et 150 fois par jour. On ne s'en rend même pas compte. On ne se demande même pas pourquoi est-ce qu'on va relever son téléphone. Avant de prendre son téléphone dans la main, on n'est même pas en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire avec. Alors certainement, on va dire, oui, je vais vérifier mes messages, mais pourquoi je dois vérifier mes messages ? On ne se pose même pas cette question. Pourquoi on ne se pose pas cette question ? C'est qu'en fait, à partir d'un moment où on a le moindre ennui, la moindre frustration, le moindre blocage dans notre vie, paf, on va aller chercher ailleurs. La vérité est ailleurs. On va aller chercher de l'information ailleurs. On va aller voir s'il ne se passe pas quelque chose à l'extérieur qui me permettrait d'accroître mon mode de vie et mon bonheur maintenant. En fait, on aurait pu penser que à chaque fois que je prends ce téléphone en main, je prends une décision de prendre ce téléphone en main. Et en fait, il faut savoir que les entreprises, les géants du net, d'accord, on appelle ça GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Amazon est moins concerné dans ce problème-là. Sont des entreprises, et en fait, si je rajoute, je mets LinkedIn, Twitter, Snap, Instagram, Facebook, etc. Ces entreprises-là ont un dénominateur commun, c'est qu'ils se battent pour notre temps. C'est-à-dire, ce sont des entreprises dont les employés se lèvent chaque matin pour savoir comment aujourd'hui je vais réussir à faire passer les internautes plus de temps sur mon service. Plus de temps sur mon service. Alors nous, on va se dire, non, mais ils sont là pour créer des super services. D'ailleurs, regarde comment c'est efficace, et regarde comment ça me rend service, etc., etc. Mais il faut savoir, donc, que ces entreprises ont un seul objectif, comme toute entreprise, c'est de croître le chiffre d'affaires. Et pour croître le chiffre d'affaires d'une société Internet, il y a trois moyens de le faire. Il y a soit augmenter sa base d'utilisateurs. C'est ce qu'ont fait les entreprises à l'Internet au cours des 20 dernières années. On augmente, on fait en sorte à ce que tout le monde soit connecté. OK, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, effectivement, pour encore croître, on va aller avoir de l'Internet en Afrique, dans des pays, bientôt en Alaska. Vraiment, on veut faire en sorte à ce que vous puissiez être connecté partout pour, effectivement, qu'il y ait une vraie croissance, qu'il y ait plus de taille de marché. On a la possibilité de lancer des nouveaux produits. Et trois, on a la possibilité, tout simplement, de faire en sorte à ce que nos utilisateurs consomment plus. Consomme plus, ça ne veut pas dire achète plus, mais ça veut dire consomme plus de temps sur notre plateforme. D'accord ? Passe plus de temps sur notre plateforme. Donc les entreprises là, les Google, Apple et les certaines applications autres, etc., n'ont qu'un objectif et calculent cet objectif avec des statistiques très très poussées, avec des équipes dédiées pour savoir aujourd'hui quel est le temps moyen qu'ont passé nos utilisateurs sur notre plateforme. Dans un mois, quel est le temps moyen qu'ont passé nos utilisateurs sur notre plateforme ? Alors, on va me dire, ça c'est, bah oui, effectivement, c'est une société qui vend de la publicité, elle veut nous convaincre, nous attirer. Et ça existait dans la télévision, ça aussi. Dans la télévision, les chaînes de télévision se battaient pour avoir des places de marché, des parts de marché. Des parts de marché, donc on avait, j'ai dû éteindre, ça marche pas du tout. Voilà. Et se battent donc pour avoir des parts de marché. Mais donc, quelle est la différence avec ce qui se passe aujourd'hui ? La vraie différence, c'est que quand les chaînes de télévision se battent pour avoir des parts de marché, c'est qu'elles veulent se battre pour les 3 heures pendant lesquelles un homme standard est devant sa télévision, est devant son écran. Donc, au final, la personne va être devant son écran, a décidé de perdre 3 heures devant son écran. Désolé. Et à ce moment-là, vont dire, bah, chaque chaîne vont se battre pour dire. Je veux qu'elle soit chez moi et je veux qu'elle passe qu'elle soit chez l'autre. Il y a un match de foot, donc moi je dois mettre un combat de catch et un prêt de truc. Enfin, on peut faire plein de choses. Google, Twitter & Co, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ça fonctionne pas comme ça parce que le but c'est pas on prend les 3 heures de connexion à Internet et on veut faire en sorte à ce que les gens à être la plateforme de prédilection pendant ces 3 heures. Non, non. Le but des Google, LinkedIn, Facebook, etc., c'est de bouffer le maximum du temps de notre journée. C'est-à-dire, l'objectif de ces gens-là, c'est que je me réveille le matin, je suis avec Google, je me couche le soir, je suis avec Google, et éventuellement dans la nuit, si je peux me lever, je serai avec Google. Donc, en fait, on est vraiment dans un modèle où on dit, on est vraiment face à des gens qui sont contre nous, ou en fait, qui veulent utiliser notre potentiel et notre temps, qui veulent consommer notre temps, pour le transformer en argent, pour le transformer en revenu publicitaire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, même sur LinkedIn, qui était censée être une plateforme professionnelle pour trouver un emploi, etc., même là-dedans, on a maintenant intégré un fil d'actualité. Et ce fil d'actualité, il n'y a absolument aucun moyen d'accéder à n'importe quel service sans passer devant chaque jour. Et moi, je me dis, allez, je vais aller sur LinkedIn, je ne vais pas le voir, je ne vais pas le regarder. Et paf, je tombe dessus, et hop, je défile, et je défile, et je défile. J'ai mince, je n'ai pas réussi. Et je recommence la prochaine fois. Je vais aller sur LinkedIn, mais je ne vais pas regarder le newsfeed. Alors, moi, j'ai mis ma main une fois comme ça. Je ne vais pas le regarder. Parce qu'effectivement, c'est l'objectif de cette société-là. Et pareil, LinkedIn a publié ses stats. Les gens passent plus de temps sur LinkedIn. Au lieu de dire, les gens aujourd'hui travaillent, ont trouvé plus d'emplois sur LinkedIn, les gens parlent de sujets beaucoup plus concrets. Non, c'est le temps passé qui va être ce que les gens vont aller chercher. Et donc, il faut savoir qu'en fait, dans les universités américaines et toutes les formations au monde de l'Internet, en fait, on travaille pour apprendre ça. On travaille pour apprendre à piéger les gens. Et comment on piège les gens? Il y a, à l'université de Stanford, par exemple, il y a un laboratoire de ce qu'on appelle la persuasion technologique. Persuasion technologique, c'est quoi? C'est, on va analyser les failles de l'être humain et on va profiter de ces failles pour aller lui injecter plus d'informations et aller l'attraper encore plus dans n'importe quel service. Alors, je vais vous prendre les différentes failles. Alors, les failles qu'il peut y avoir, ça peut être l'ego. L'homme veut se montrer. Ça peut être l'ennui, et donc essayer de profiter de cet ennui et d'aller l'absorber dans certaines choses. La reconnaissance vis-à-vis des autres, etc. Donc, on va prendre en fait tous ces défauts, on va analyser comment les gens réagissent à n'importe quelle action, et on va aller essayer d'utiliser ces défauts pour aller les exploiter. Alors, il faut savoir que dans le monde publicitaire, ça fonctionnait comme ça aussi, d'accord ? Quand une société a son logo en haut à droite et pas en haut à gauche, tout ça, c'est des statistiques, c'est des études qui ont été faites pour voir l'œil. Alors, on dit que l'œil regarde une page internet en Z, par exemple. Il y a plein de techniques comme ça. On a analysé comment les gens vont analyser une publicité. Là, bon, c'était quelque chose d'assez particulier. Là, on est le seul objectif, c'est comment je fais pour avoir des gens qui restent le plus longtemps chez moi. Et donc, par exemple, il y a plusieurs méthodes. Donc, WhatsApp, si on prend WhatsApp, par exemple, WhatsApp pour intégrer les accusés de réception. On me dit, c'est super, accusés de réception, on peut savoir si les gens répondent de l'autre côté. Alors, on me dit, ils sont sympas chez WhatsApp, ils ont intégré une bonne fonction. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas retirer ces accusés de réception. Ou en fait, si on peut retirer, je crois que c'est que sur Android, on peut retirer les accusés de réception, mais nous-mêmes, on peut plus voir les accusés de réception chez les autres. Très malin. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'en fait, WhatsApp veut que la communauté soit extrêmement active. Et je sais très bien que si je poste un message sur WhatsApp, la personne en face va le voir, elle va me répondre ensuite, elle va savoir que je l'ai vu. Et là, si je réponds pas, il y a un problème. Donc, si c'est votre mère qui vous envoie un message, vous regardez le message, vous répondez pas, catastrophe. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Pourquoi tu réponds pas? J'espère que tu vas bien. T'avais l'air fatigué hier soir, etc. Non, en fait, je suis juste en voiture et je peux pas regarder et répondre en ce moment, etc. Bah, les gens s'inquiètent. Quand on est avec un ami, pourquoi il me répond pas? Peut-être il est sorti avec des amis, il veut pas me dire. Quand c'est avec un employé, mon boss me répond pas. Peut-être qu'il a quelque chose, une dent contre moi. Quand c'est avec ma fiancée, si on répond pas, après 23 secondes, là c'est la catastrophe aussi. Donc voilà, en fait, ça crée un modèle de frustration où finalement les gens sont dans un modèle où ils ont une obligation de répondre. Et de l'autre côté, après, une autre obligation de répondre. Et comme ça, un ping-pong permanent. Et c'est pour ça que finalement, on est en permanence dans cette mouvance. Et ça, comme je le disais, ce n'est pas quelque chose de juste sympa, une fonctionnalité qui a été intégrée là. C'est la composante la plus importante finalement qui fait en sorte à la croissance exponentielle de WhatsApp. On a par exemple un autre modèle, c'est que sur YouTube ou sur Facebook, maintenant quand on voit des vidéos, on vous propose une autre vidéo juste après, d'accord? Et on va la démarrer quelques secondes après. Vous regardez la vidéo, vous allez voir un cours d'un rav, paf, après c'est concours de lancer de frisbee sur la plage de Los Angeles. Paf, pourquoi on vous a proposé? Bon, chacun son profil et son parcours. En tout cas, on pense que ça peut vous intéresser. Et donc, on va en permanence, vous allez vous jouer d'autres choses. Alors, c'est intéressant, en fait, il y a une étude qui a été étudiée à l'université de Cornell, qui dans ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des gens autour d'une table, autour d'un bol, et chacun leur ont transmis un bol de soupe. Et alors, en fait, là, tout le monde avait un bol de soupe, mais il y avait deux types de bols de soupe. Les gens ne le savaient pas. Certains bols de soupe étaient des bols de soupe standard, et certains bols de soupe étaient connectés à un petit tuyau en dessous qui, pendant que les gens mangeaient, remplissait encore plus de soupe. D'accord? Alors, c'est avéré qu'en faisant ça, en transmettant encore plus de contenu en permanence, en tout cas de nourriture, les gens mangeaient 73% de plus, quasiment deux fois plus. Ils ne s'en rendaient même pas compte. Et donc, quand on étudie ça, alors bien sûr, on pouvait utiliser cette étude pour dire « Ah, attention, il faut faire attention à ce qu'on mange, il ne faut pas acheter un paquet de chocolat trop grand, enfin, je ne sais pas, on peut faire des choses pour le bien de l'humanité. » Mais non, en fait, les gens qui utilisent ces études-là vont dire « Donc, les gens, il faut les gaver. Du moment qu'ils ne s'en rendent pas compte, ils continueront à consommer encore plus. » Et c'est exactement comme ça que fonctionnent même les newsfeeds, les flux d'informations, etc., qui sont dans les différentes parts. On nous suggère des gens avec qui on peut être amis. Au lieu de se demander est-ce que c'est bien d'avoir plus d'amis, on se dit c'est bien d'avoir. Voilà d'autres amis avec qui vous pourrez être plus d'amis. Ah bon, je veux avoir plus d'amis, je savais pas. Moi, en plus quand je veux sortir le soir, il y a personne. Mais là, non, j'ai plus d'amis. Et donc, la première fois, moi, j'étais sur Facebook depuis 2007. J'ai quitté Facebook en 2012. Et au début, c'était pas comme ça. Il y avait pas, on recommande des amis. Il y avait pas de recommandation du tout, en fait. C'était assez simple à l'époque. Et le jour où ça arrivait, ce truc-là de recommandation d'amis, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Pourquoi ils veulent me recommander plus de gens? Voilà, moi, je suis bien avec les gens, mon entourage, les gens que je connais. Pourquoi est-ce qu'ils veulent me pousser à avoir plus d'amis? Effectivement, et pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est que plus j'ai d'amis, plus je vais avoir de contenu qui vont aller m'abreuver. Donc, plus, effectivement, j'aurai d'interactions avec des gens, plus je vais passer de temps sur cette plateforme. C'est quelques exemples, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut pas aller voir ces messages sur Facebook sans être passé par newsfeed, par le flux d'informations, etc., etc. Donc tout ça, finalement, ce sont des choses qui sont faites pour nous piéger. Faut le savoir. Maintenant, on peut dire, j'en ai rien à faire, moi, de me faire piéger, je kiffe, je suis bien là-dedans, d'accord. Mais bon, moi, je vous dis juste, voilà, je suis là ce soir pour mettre en garde qu'il y a quand même un ennemi invisible qui est de l'autre côté et qui est là en fait pour essayer de nous voler le temps qu'on a. L'un des chefs philosophes de Google s'appelle Tristan Harris. C'était un des anciens chefs philosophes, chefs éthiques. Enfin, il a eu plusieurs titres. Je ne sais pas exactement quel est son titre. Il dit qu'en fait tout ça fonctionne comme de la magie. C'est-à-dire qu'en fait, dans la magie, dans la prestidigitation, comment fonctionnent les magiciens? Pareil, ils savent comment l'œil regarde, ils savent comment attirer l'attention, ils vont faire quelque chose de l'autre côté, etc. Pareil, il dit que c'est exactement les mêmes formules et les mêmes méthodes qui sont utilisées dans le monde de l'Internet. Il faut savoir que lorsque le premier iPhone est sorti, on pouvait relever ses mails, donc, évidemment, mais on ne recevait pas d'alerte quand on recevait un mail. On devait aller consulter ses mails de temps en temps. Et il y avait en fait, dans le monde, il y avait uniquement un appareil qui s'appelait le BlackBerry, qui existe toujours, mais qui ne va plus exister encore longtemps, et qui proposait effectivement de l'info en temps réel. Moi, j'étais en 2007, j'étais dans les rues de New York, je voyais les gens étaient sur leur BlackBerry, ils traversaient sans garder le feu, donc les voitures s'arrêtaient comme ça, freinaient, et les gens étaient en train de traverser dans tous les sens. Mais c'était absolument incroyable, les gens, tout le monde sur la route était en train de s'envoyer des messages. Et à un moment... Donc ce fameux Tristan Harris dont je vous ai parlé qui travaille chez Google, il a assisté à une réunion chez Google où la réunion c'était quoi? C'était bon, comment faire en sorte à ce que les gens prennent plus en main leur téléphone? Comment les gens vont prendre plus en main leur téléphone? Pourquoi c'est important? Parce que quand les gens ont en main leur téléphone, ils vont aller consulter des trucs et en général ils vont aller avoir besoin de Google quelque part. Et donc ils ont dit, on va mettre des notifications pour les mails, mais aussi on va mettre des notifications pour n'importe quoi. On va laisser n'importe quelle application envoyer des notifications. Alors, au début, ils ont montré ça en disant « Ouais, les développeurs, regardez le pouvoir qu'on vous a donné, vous pouvez envoyer des alertes et regardez, utilisateurs, vous allez pouvoir être averti de moments importants. » Bon, si vous voyez aujourd'hui vos notifications, en général, il n'y a pas vraiment d'importance. Mais en tout cas, l'objectif de ces gens-là, c'était effectivement pareil, c'était comment je fais pour vous voler le temps et faire en sorte à ce que les gens consomment encore plus. Il est intéressant de voir que la sonnerie d'un téléphone portable, une notification ou n'importe quoi est en général prioritaire sur la vie réelle. Moi, par exemple, j'ai un épicier, enfin les marchands de fruits et légumes à Bnei Brak, en Israël, etc. Il y a un truc assez impressionnant. On arrive à acheter des légumes, il nous parle, il a un coup de fil, il prend le coup de fil, il va prendre la commande au téléphone. Nous, on est devant, on est là, on attend, paf, il est au téléphone. Je ne sais pas si ça se passe comme ça aussi ici. Il prend le téléphone, ok. Il continue à faire la commande, il y a un coup de fil, hop, prends la commande. Regarde, non, effectivement, il y a une urgence, il y a le téléphone qui sonne, c'est encore plus important. Et une fois, il faut savoir que j'étais dans un magasin, j'ai pas réussi à parler à l'épicier, je lui ai passé un coup de fil dès qu'il avait un moment de libre, et j'étais en face, Il a répondu, je lui ai dit, regarde, je suis en face de toi, je te passe la commande, au moins tu seras occupé. Il me fait, ah, tu rigoles et tout. Je lui ai dit, non, ça fait juste un quart d'heure que j'attends, mais maintenant, là, on y va, quoi. Et vraiment, en fait, c'est que, à une époque, quand on était au téléphone, en plus, on était occupé. D'accord? On disait, il est occupé. D'accord? Il n'y a plus ça aujourd'hui. Il n'y a plus, la personne est occupée au téléphone. Elle est en ligne. Donc, moi, je vais sonner, double appel, triple appel, quadruple appel. Pourquoi les opérateurs télécoms ont voulu lancer le double appel? Moi, j'étais proche d'opérateurs de télécoms, je peux vous dire les discussions internes. C'était pour consommer plus. Si je permets aux gens de téléphoner deux fois au même moment, ou de recevoir deux appels au même moment, bah, finalement, je peux basculer, faire en sorte à ce que les gens consomment plus et restent plus connectés entre eux. Et donc, au final, moi, ce que j'analyse, en fait, dans ça, c'est que on est en permanence en train de penser que le bonheur, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le bonheur vient de l'extérieur. L'information importante vient de l'extérieur. On est à la maison, on est avec ses enfants, le téléphone sonne. Le téléphone sonne, qui répond? Ah non, non, vas-y, ouais, truc. Mais il faut répondre. Pourquoi il faut répondre? Oh, c'est peut-être grave, il va se passer quelque chose, c'est important, etc. Pourquoi ça serait important? Quelqu'un nous appelle, c'est une agression d'ailleurs en général. Quelqu'un nous appelle. On est là, on était bien. On attend de nouvelles de personne. Tout va bien. En général, quand on nous appelle, 99,999%, bah, c'est pas pour nous donner des informations intéressantes. Je suis en train de passer un bon moment maintenant. Pourquoi est-ce que je vais donner priorité au téléphone? Donc, je suis au téléphone, je suis assis avec mes enfants à table. Le téléphone sonne, je vais répondre. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué, on a toujours l'impression que le bonheur vient de l'extérieur. Il va se passer un événement qui va maintenant changer la vie. On attend le Mashiach. D'accord? Je vais en reparler de ça tout à l'heure. Ben maintenant, bientôt, je vais en parler dans quelques minutes. Il y a aussi quelque chose, c'est que moi j'ai un ami qui étudie au collège et qui me dit, quand mon téléphone est allumé dans ma poche à l'extérieur de l'endroit où j'étudie, mais il est allumé, je me sens connecté encore au téléphone. Il y a quelque chose qui se passe. Si je ne l'éteins pas ou si je ne le laisse pas à la maison, je n'arrive pas à me déconnecter. Moi, franchement, je sens aussi ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le fait d'avoir un téléphone quelque part ou même dans vos poches en ce moment, il y a peut-être un truc là qui s'est passé. Et il est sorti deux jours après qu'il m'ait dit ça, il est sorti une étude dans le Figaro qui est sortie il y a deux semaines. Et en fait, c'est un laboratoire qui s'appelle Kaspersky Labs. Kaspersky, c'est les éditeurs d'antivirus, qui ont fait une étude sur la concentration des gens qui utilisent des smartphones. Ils ont pris 100 personnes, ils ont divisé en 4 groupes. Pour certains, avaient leur téléphone devant eux, posé sur la table. Certains avaient leur téléphone dans la poche. Certains avaient le téléphone bloqué, fermé dans une armoire dans la même pièce. Et d'autres avaient le téléphone à l'extérieur de la pièce. Plus le téléphone s'éloignait, et je ne parle pas même pas qu'ils avaient des messages à ce moment-là, d'accord? Plus le téléphone s'éloignait, plus les gens arrivaient à se concentrer. Ils arrivaient à augmenter de 26% leur capacité de concentration. C'est un article qui est sorti dans le Figaro. Vous avez un site qui s'appelle Digital Amnesia du Kaspersky Labs qui parle de tous ces sujets-là. C'est absolument incroyable. Et donc ils disent, on pense que finalement on a un smartphone, donc on va être plus smart, on va être plus efficace, etc. Finalement, le fait d'être 100% connecté, effectivement connecté à cet appareil-là, va nous faire qu'effectivement, on va être de moins en moins efficace. Donc, il y a quelque chose de psychologique, quelque chose qui nous attire, effectivement, vis-à-vis de ces appareils-là. Et comme j'ai expliqué, moi, ça, c'est ma théorie à moi, d'accord? J'ai pas vu un Raph qui a dit ça, j'ai pas vu un truc. Ma théorie, c'est vraiment, je pense qu'on est tous toujours en attente, et comme je le disais, en attente du Mashiach. D'accord? Et je pense, même dans les environnements non-juifs, etc., on est toujours dans l'attente d'un événement qui va transformer notre vie. Ça peut être une bonne nouvelle, j'attends l'augmentation de mon patron. J'attends que ma fille annonce son mariage. On attend toujours quelque chose de l'extérieur. Et en général, donc comme cette information en général va venir de l'extérieur, d'accord, à moins que le Mashiach soit votre fils, donc je vous le souhaite, mais en tout cas, on est là en permanence à se dire, il y a quelque chose qui va se passer. Alors on peut aussi attendre une mauvaise nouvelle, on peut être quelqu'un de pessimiste, j'ai peur des attentats, Chas v'Shalom, j'ai peur de plein de choses qui peuvent se passer. Donc, je vais avoir un grand stress et j'ai peur qu'il se passe quelque chose en permanence. Alors, évidemment, la mère d'un soldat. Hier, j'étais dans l'avion assis d'une femme, à côté d'une femme, dont le fils avait été envoyé à Gaza il y a pas la précédente guerre, la guerre d'avant. Et elle avait son fils qui était au fin fond de Gaza, etc. Elle a perdu le contact pendant 3 semaines. 3 semaines, aucune nouvelle de son fils. D'accord ? Et effectivement, quand elle travaillait, elle avait effectivement posé son téléphone devant, si elle attendait son fils. Et elle disait aux gens autour d'elle, j'attends une nouvelle dans le vide. On peut comprendre ça. On peut comprendre, on attend une nouvelle, on attend quelque chose, etc. Mais pourquoi nous tous, on attend une nouvelle ? Pourquoi nous tous, on est là en disant, il va se passer quelque chose, donc il faut absolument qu'on soit connecté à ça ? C'est qu'en fait, finalement, on a un vrai problème à vivre à l'instant présent. On a un vrai problème à vivre l'instant présent. C'est-à-dire que finalement, on a en permanence une insatisfaction. Insatisfaction professionnelle, insatisfaction personnelle. On n'arrive pas à se contenter à être content de la position dans laquelle on est, de comment est-ce qu'on est, du livre qu'on est en train de lire. On a une petite fois, on dit, peut-être qu'il y a encore mieux, peut-être qu'on peut faire encore mieux. Alors que finalement, quel est l'objectif idéal de n'importe quel homme, ou femme bien sûr, c'est d'arriver à un stade où on est content de sa situation. D'accord ? Content de, on dit, miwashir à sa mère Bechelko, qui est riche, celui qui est satisfait de sa part. On peut étendre ça à ce qui est satisfait de sa situation en global, pas financière uniquement. On est là qui est riche, celui qui est content de tout. Content de ce qu'il est en train de faire, content de ce qu'il a, de sa voiture, content de. Non, voilà, il n'y a rien, j'attends rien de plus. Effectivement, nous, on est en permanence, en train d'attendre ça. Une autre histoire, il y avait un rabbin qui s'appelle Rav Meir Loria, il raconte qu'un jour il assistait à une levaya, donc à un cortège funèbre. Et tout le monde était en train de suivre le cortège. Et à un moment, le cortège s'arrête. Je ne sais pas si vous avez deviné ce qui s'est passé. Une des personnes qui portait le corps a reçu un coup de fil. Et les gens lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, c'est un appel d'Amérique. Alors, il pensait qu'il allait avoir des dollars qui arrivaient d'Amérique, je ne sais pas, il allait appeler d'Amérique, c'est un... Ils ont arrêté, ils ont fait arrêter le mort sur la route pour lui dire pour effectivement que la personne passe son coup de fil à côté. Et ça, en fait, on m'a raconté cette histoire. Une autre personne m'a raconté une histoire identique. En fait, ce genre d'événement-là, il arrive en permanence. Ils arrivent régulièrement. Alors, Dieu merci, on n'est pas dans ces endroits souvent. Mais voilà, ce sont des événements qui arrivent en permanence. Il y a effectivement quelque chose de plus important que la mitzvah qu'on est en train de faire. Alors, ce qui est important, c'est que de se dire, comment est-il possible qu'une société, une entreprise, arrive à avoir des horaires d'ouverture ? Une société, vous voulez contacter votre banque, 9h à 13h. D'accord ? Vous allez n'importe quel magasin, il y a une horaire d'ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Un médecin, un grand cardiologue, quelqu'un qui va sauver des vies, etc. Des moments où son téléphone est éteint, prend pas d'appel. Il n'est pas en permanence. Alors que nous, on est là avec notre téléphone, à être en permanence. Tout le temps, à part quand on dort, et comme je vous dis, je vais en parler dans quelques minutes. Il y a des gens qui consultent leur téléphone toutes les heures pendant la nuit. D'accord ? Est-ce que j'ai pas reçu le deal ? Est-ce que ça ? Moi, quand j'étais investisseur, j'investis dans beaucoup, beaucoup de sociétés. Enfin, je continue à investir, mais d'une autre manière. J'investis dans beaucoup de sociétés. En fait, j'attendais toujours une bonne nouvelle qui était, est-ce qu'une de mes sociétés va se faire racheter ? Ou est-ce qu'on va signer un gros deal avec une boîte ? Est-ce que... N'importe quoi, il y avait plein de bonnes nouvelles à attendre. Et à un moment, je faisais reload sur ma boîte mail. Tiens, il va arriver la bonne nouvelle. Et donc j'arrivais, je me quittais mon ordinateur, je regardais, il va avoir la bonne nouvelle. Une fois, deux fois, un mois, 2 mois, 3 mois, non, la bonne nouvelle n'arrive pas. Frustration, etc. Et à un moment, je me dis, mais pourquoi je suis pressé ? Pourquoi je veux que cette nouvelle arrive maintenant ? Non, c'est qu'au final, on a vraiment, comme j'ai expliqué, on attend quelque chose et on veut être en permanence. Actif pour aller réagir à l'ensemble de ces messages. Et comme j'ai expliqué, pourquoi on n'arrive pas à se battre contre ça, en tout cas peu d'entre nous y arrivent, c'est parce que justement on est en train de se battre face à des gens qui conçoivent des téléphones et qui conçoivent des applications pour qu'on n'arrive pas à sortir de ça. C'est un yetzer portable qu'on a sur nous. J'ai un de mes meilleurs amis et un des patrons d'une des plus grosses sociétés de téléphone d'Europe. Je ne vais pas dire le nom. Et quand je lui ai dit que j'utilisais plus de smartphone, c'était l'année dernière, il m'a dit, Jérémy, quand je quitte ce business, je fais comme toi. C'est le PDG d'une des plus grandes marques que vous connaissez tous. D'accord ? Donc tout le monde sait qu'il y a un problème. Tout le monde reste là-dedans. Et au final, on est, comme on l'expliquait, on est de grosses victimes. Alors justement, par rapport au fait des gens qui se connectent toute la nuit, qui se réveillent la nuit, etc. J'ai un ami qui était un des présidents de Microsoft France, un des grands directeurs de Microsoft, et qui était investisseur après, et avec qui je travaillais. Et un jour, je lui envoie un mail, il répond pas. Une semaine après, je lui envoie un mail, il répond pas. Alors que c'est quelqu'un de super réactif, super, super réactif. Et un jour, j'envoie à un de ses collègues, je lui dis « qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « il est à l'hôpital, il y a des problèmes de santé. » Bon, alors on imagine qu'il a une maladie grave, quelque chose, etc. Pendant 6 mois, aucune nouvelle. 6 mois après, il revient. « Salut Jérémy, comment tu vas ?» Je fais « je te pose moi la question. » Il me dit « je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai fait un burn-out. J'ai explosé, mon cerveau a explosé finalement. Je me suis retrouvé 6 mois à l'hôpital. » Je consultais mes mails jour et nuit. Je consultais les différentes news informations en permanence. Mon cerveau a explosé. Enfin, mon cerveau a explosé, vous voyez bien, psychologiquement. Et je me suis retrouvé, là je suis sous traitement, et je me suis retrouvé à l'hôpital pendant 6 mois. Je sais pas si vous avez aimé 6 mois d'hôpital, c'est très très rare de faire autant, d'accord? Ça fait pendant 6 mois. Maintenant, je veux calmer le jeu, etc., etc. Bon, il a un peu recommencé ces derniers temps. Je suis en train de l'avertir. Mais en tout cas, voilà, le cerveau n'est pas fait pour aller consommer autant d'informations, n'est pas fait pour avoir en permanence cette course. Alors, comment faire pour s'en sortir sur ce sujet? Il y a un secret que j'ai découvert en étant voilà, associé à des centaines de sociétés, c'est que l'urgence n'existe pas. L'urgence n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a très, 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 très peu d'occasions où j'ai besoin d'avoir une information en temps réel. Par exemple, moi mes mails, je ne les ai pas relevés depuis ce matin 7h. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être plein de choses. Peut-être qu'il y a plein de gens qui m'ont relancé 3 fois. Et voilà. Mais est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il y a quelque chose de grave qui a pu se passer à ce moment-là? Non. En général, non. Et si on se dit que finalement, il n'y a pas d'urgence, on peut se dire que... Alors, évidemment, si on est... ambulancier, donc secouriste, pompier, trader boursier, médecin, etc. Évidemment, il y a des métiers où il faut de l'urgence, d'accord? Il y a un vrai sujet de l'urgence. Mais au final, il y a dans notre vie, alors qu'on est là en train de consommer et de consulter entre 110 et 150 fois notre téléphone par jour pour voir s'il s'est passé quelque chose, il n'y a absolument pas d'urgence. Et ça, je vais vous dire... Quand je parle de ça à des chefs d'entreprise, etc., quand les gens prennent ça en compte, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils changent de manière de travailler. Ils sont plus sereins. Ils arrivent à prendre du recul beaucoup mieux sur les choses. Ils arrivent effectivement en permanence à aller analyser plus les choses en profondeur. Et là, on va parler de ces sujets maintenant. Il faut savoir que le lieu où la méditation explose le plus dans le monde, le lieu où il y a de plus en plus d'activités de gens qui pratiquent la méditation, c'est la Silicon Valley. D'accord? C'est en fait les gens qui sont là, les Google, Facebook, Twitter, etc. Bah, chez Twitter, vous avez tous les matins une séquence de méditation. D'accord? Pourquoi ça se passe là-bas? Parce qu'effectivement, ce sont des gens qui effectivement ont créé des outils qui sont dans lesquels ils vivent en permanence, etc. Et ils ont très très bien compris qu'ils ont besoin effectivement de prendre du recul. Moi, je vois la plupart de mes amis qui travaillent sur Internet depuis des dizaines d'années, d'accord? Ils sont tous, alors soit il y en a un, il part en monastère pendant 2 mois, soit ils font des week-ends déconnectés, soit c'est genre, mais on a l'impression d'être une bande de drogués et on va en cure de désintoxication, c'est-à-dire qu'on a l'impression de ce genre de choses. Et dans la Silicon Valley, c'est comme ça. Alors, il y a des rumeurs qui disent que même un des managers d'Apple ne donne même plus à ses enfants, en fait, smartphone en main. Juste pour imaginer pour que les enfants passent plus de temps à lire et à consulter plus de choses intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend les leaders du peuple juif, d'accord, depuis la création du peuple juif, Abraham, Yitzhak et Yaakov, les 12 enfants d'Yaakov, Moshe Rabbeinu, David Ameler, Rabbi Akiva, est-ce que quelqu'un sait quel était le point commun de tous ces gens? Non. Quoi? C'est des juifs, ouais. Mais non. Ah, Chazak. Il était berger. Chazak. Ils étaient tous bergers. D'accord ? C'était des bergers. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu le boulot d'un berger tous les jours. D'accord ? Le boulot d'un berger tous les jours, c'est d'aller sortir ses bêtes dans le pâturage et de les regarder manger. D'accord ? Les leaders du peuple juif, les gens qui ont transformé le peuple juif, sont des gens qui avaient du temps mort. On appelle ça temps mort. On ne fait rien. D'accord ? C'était eux. Il faut savoir que pareil, quand le prophète Samuel est venu chercher... Enfin, le prophète Samuel a une prophétie qui lui a dit « Tu vas trouver dans la maison de Ishaï le successeur du roi Shaoul. » Il est arrivé dans la maison, il a vu des grands gaillards, des fils qui étaient là, grands gaillards, etc. Et d'ailleurs, il en voit un qui était spécialement fort, etc. Il dit « Bah voilà, ça doit être un d'entre eux qui doit être le roi. » Et il y a Hachem qui lui envoie une prophétie à ce moment-là et qui dit « Non, 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 c'est pas eux. Ne regarde pas l'apparence physique, regarde le cœur. » Et il lui dit, Ishaï, il dit, tu n'as pas un autre fils ? Il dit, si, j'ai le petit là-bas, mais lui, il est berger, il est à l'extérieur. C'était le roi David. Donc, que fait un berger ? Comme je l'ai expliqué, il ne fait rien. C'est quelqu'un, en fait, qui va se concentrer en permanence à analyser le monde. Analyser même la manière dont son troupeau va fonctionner. Mais en manière dont la bête numéro A va aller se battre avec la bête numéro B pour aller attraper un morceau de nourriture. Va analyser comment, effectivement, il peut y avoir des interactions entre les différents. Bon, il peut analyser beaucoup de choses, mais surtout, il peut analyser sa vie. D'accord ? Abraham, c'est effectivement dans une situation de berger qu'il a effectivement réussi à devenir monothéiste dans un environnement uniquement d'idolâtre. Mon cher Abénou, c'est en situation de berger, d'accord ? Il était en train de faire paître son troupeau, qu'à un moment, un de ses mouton est parti dans le mont Sinaï. Il a essayé de le suivre pour aller le sauver. Bon, qui était aussi une force de Moshe qui faisait attention à n'importe quelle de ses bêtes. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé à lui, a dit, Moïse, je veux que tu ailles sauver mon peuple. C'était dans des moments comme ça, dans des moments de silence. D'accord? C'est pas une coïncidence. D'accord? On peut pas dire que c'est une coïncidence que tous ces gens étaient bergers. Franchement, il y avait d'autres métiers à l'époque, hein. On pouvait être scribe, on pouvait être, fabriquer des maisons, il y avait plein d'autres métiers, d'accord ? Mais qu'est-ce qui faisait qu'effectivement il était important pour ces gens-là de faire ce métier-là ? C'était que finalement, ce métier-là était celui qui permettait de se transformer. Et donc un berger, c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune interruption. Et même s'il a une interruption parce qu'il y a une bête qui a frappé l'autre, etc., il va lui faire attention, hop, et tout ira bien dans quelques secondes, d'accord ? Il n'y a pas d'interruption. Alors, on a absolument besoin, dans notre vie, d'avoir du temps pour réfléchir, d'avoir du temps pour prendre du recul. Et je vais même vous dire, moi, ce que je pense. Je pense qu'on a plus besoin de temps pour réfléchir que de temps dans lequel on doit agir. Moi, il y a quelque chose, par exemple, je me suis rendu compte, des gens me disent, quel est le conseil que tu donnes à un entrepreneur ? Je lui dis toujours de définir parfaitement le petit point qui doit changer et qui doit améliorer, qui va lui permettre d'augmenter ses performances. Performance, ça peut être son chiffre d'affaires, ça peut être le temps qui va passer, etc. Et très très souvent, on est pris dans la course de la vie, on est pris dans la course de tout ce qu'on est en train de faire, et on va faire plein de choses. Moi, par exemple, les grandes disputes que j'ai eues avec les entrepreneurs dans lesquels j'ai investi, c'est ceux qui me disaient « Jérémy, j'arrive au bureau à 7h, je finis à 23h, je comprends pas, mon associé, il arrive à 9h, il part à 20h. Pourquoi ? Il travaille pas assez. » Je dis, oui, mais regarde, lui, il a fait ça, qui était important. Toi, tu as fait plein de choses qui n'étaient pas importantes. Non, mais c'est pas possible, j'ai travaillé plus. Et finalement, en fait, clairement, si vous vous rendez compte, et vous allez voir dans le monde des affaires, ça fonctionne comme ça, et dans la vie en général, finalement, en fait, quand on a une entreprise, etc., ce sont des toutes petites choses, enfin, qui peuvent être des choses complexes à mettre, mais qui sont des choses finalement simples, qui peuvent être complètement transformantes de ce que vous avez fait. Et je parle que vous ayez une grosse entreprise ou une petite entreprise. Et ce qui passe, et finalement, on passe tellement de temps à communiquer, en réunion, à courir, qu'on n'est même pas en train de se demander est-ce que ce qu'on doit faire là aujourd'hui, ça sert à quelque chose. Moi, je conseille des grands groupes des grands groupes, d'accord, des grandes entreprises, dont une des plus grandes entreprises de France, d'accord, une des cinq plus grandes entreprises de France. Et il y a une de ces entreprises qui travaille depuis 5 ans sur un projet. Et moi, j'ai été appelé par le PDG. J'ai dit, voilà, il me dit, Jérémy, j'aimerais que vous nous aidiez à analyser ce truc-là, là, qui tourne depuis 5 ans, etc. Et ils m'ont mis des ressources techniques, une plateforme qui fait plein de choses, etc. Et à un moment, donc moi, je m'assois avec le réunion, je commence à voir, je fais, bon, OK, à quoi ça sert? Je pose cette question, à quoi ça sert? Alors, ça va permettre aux gens de faire... Bon, je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que sinon, vous allez comprendre de qui je parle. Donc, je vais être très discret. Ça sert à faire ça et les entreprises vont faire ça et tout. Mais à quoi ça sert? Pourquoi ils ont besoin de ça? Oui, ils ont besoin de nous et parce que ça, ça, ça. Mais à quoi ça sert? Et à un moment, on est là autour de la table. Moi, je suis en vidéoconférence avec eux. Ils se regardent comme ça. Jérémy, arrête! Je fais, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, Jérémy, pourquoi tu nous poses ces questions-là? Je fais, je vous demande à quoi sert sur dont vous êtes en train de bosser depuis 5 ans. Et vous êtes en train de dépenser entre 5 et 10 millions d'euros par an, d'accord? Juste pour imaginer un peu le projet. Et après, ils me font tous un sourire, ils me disent, Jérémy, finalement, on ne sait pas. Bon, alors maintenant, on a un problème. Comme ça, ils me disent, hein. On a un problème, c'est que c'est fait. Il est là, le truc. Bon, alors, Jérémy, tu vas nous aider à trouver un intérêt au truc. Vraiment, hein, ça s'est passé, ça a même pas 6 mois, cette histoire. On a passé des heures et des heures à chercher un intérêt à quelque chose qui a été développé sans intérêt. On n'a pas trouvé. Alors, si, l'équipe est toujours là, il y a la plateforme, ils continuent à essayer de le caser quelque part. Viens, on va l'utiliser pour faire ça. Mais ça sert à rien, on peut faire beaucoup plus facile. Ouais, mais on a le truc, on l'a développé, ça fait 5 ans. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé dans la tête de ces gens-là? C'est que ils avaient la tête dans le guidon. Ce projet-là a été lancé, ils ont mis des équipes, ils ont mis des trucs. Et quand je vous parle, c'est même pas qu'il n'y a que les patrons qui ne s'étaient pas posé la question, c'est même les gens en interne. Donc après, on a fait des réunions, on a fait une conférence téléphonique, je crois qu'on était 6-7 au téléphone. Les gens en interne n'avaient pas de réponse. Ils étaient en train de travailler tous les jours, ils ne savaient pas à quoi servait leur truc. Enfin, si vous vous rendez compte. Et donc, pourquoi moi je vous dis ça? C'est que finalement, quand on travaille et quand on vit, quand on va faire des choses dans sa maison, quand on va prendre des décisions importantes dans sa vie, on a besoin d'un temps important de réflexion. D'un temps important où on se pose des questions. Est-ce que ça va servir? Est-ce que ça va m'améliorer ma vie? Etc, etc. Nous, en fait, en tant que juifs, on doit se poser les questions, c'est est-ce que l'acte que je vais faire maintenant, est-ce que la décision que je vais prendre maintenant va améliorer ce qu'on appelle ma avodat Hashem, d'accord, mon service divin? Est-ce que je vais être un meilleur juif en prenant cette décision? C'est ça, en fait, la décision numéro 1. C'est pas, est-ce que je vais gagner plus? Parce que même gagner plus, en général, c'est pas toujours la meilleure chose pour le service divin. Très souvent, on va être encore plus enfoncé dans une entreprise et on n'aura même plus le temps pour aller à la synagogue. Savoir qu'il y a 15 ans, je priais là, dans cette synagogue pendant une année. Et voilà, on est en permanence pris dans des choses qui font que finalement on n'arrive pas à se poser les bonnes questions qui vont être effectivement est-ce que oui ou non je vais être quelqu'un de bien ou quelqu'un de moins bien, d'accord? Ça paraît des grands mots ce que je veux dire, mais on va rentrer dans le détail un peu de ce que ça veut dire. Alors maintenant, en même temps, je vous dis, la concentration et le fait d'avoir du temps, ça peut faire aussi des horreurs, d'accord? Hitler a écrit Mein Kampf en prison, il avait du temps. D'accord? Il a écrit Mein Kampf. C'est là où il a eu le temps de réfléchir à ses abominations. Donc effectivement, le temps, même si on le dit, il faut réfléchir, effectivement, il faut avoir la bonne construction et les bons états d'esprit qui va faire qu'on va aller essayer d'utiliser après ce temps pour le bien. D'accord? Donc, si on est en permanence mitraillé par des messages, si on est en permanence à consulter son fil Facebook, si on est en permanence en train de paf, de consulter son téléphone, comme je l'ai dit, en fait, on allume son téléphone 110 à 150 fois, on le touche entre 2600 et 5000 fois par jour. Tac, 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 tac. D'accord? C'est les stats. Alors, il y en a qui vont dire, mais non, t'exagères, etc. Le lendemain, ils vont compter, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et ce qui est important, comme j'ai expliqué, c'est que ce qu'on appelle la menuchat nefesh, c'est la sérénité. C'est le repos de l'âme. On traduit ça en sérénité, c'est la chose la plus importante pour prendre de bonnes décisions et pour être effectivement de voir si on est un bon juif ou pas. Le Ramchal écrit comme ça dans le Messilat Yesharim. Aoler beolam oblid bonenut, imtova darkora, ineu ke suma, aoler al svatanar, achar sakanato vadayatsuma, verato krova metzalato. Celui qui se promène dans le monde sans introspection sur ce qu'il fait, pour savoir si son derer, sa voie, sa manière de vivre, est bonne ou mauvaise, est comme un aveugle qui se balade au bord d'un fleuve dont le danger est assuré et son mal plus proche que son sauvetage. En gros, il a plus de chances de se planter que de réussir. Quelqu'un qui n'est pas en permanence en train de réfléchir au choix de sa vie, au choix de ce qu'il est en train de faire, ou même à ce qu'il a décidé de faire aujourd'hui, d'accord ? Le matin en se levant, de dire « voilà ce que je vais faire aujourd'hui », s'il ne réfléchit pas comme ça, s'il ne fait pas son Khedwan Efesh en permanence, il est obligé de tomber. Obligé de tomber et faire n'importe quoi. Perdre du temps, faire des mauvaises affaires, faire mal s'occuper de ses enfants, etc. etc. Et comme j'ai expliqué aujourd'hui, impossible avec notre, effectivement, l'ensemble de ces informations qui nous arrivent, de recevoir, de réussir dans ce genre de choses. Moi, j'ai dîné il y a 2 mois avec plein de managers du groupe Covea. Vous voyez, les assurances, MMA et tout ça. Et ils étaient en visite en Israël et on était une dizaine, disons, autour de la table. Et donc, il me parle, il me dit, voilà, on parlait du monde du digital, etc., des nouvelles technologies, comment ça peut se transformer le monde de l'assurance, etc. Bon, plein de trucs qui peuvent être intéressants. Et à un moment, ils me disent, on a juste un problème, notre PDG n'est pas connecté à Internet, n'a pas de smartphone. Et il n'a même pas d'ordinateur sur son bureau. C'est son assistante qui relève les mails. Ils me disent, ok. Et donc, il dit ça. Et après, il me dit, mais qu'est-ce qu'il est brillant. Il a fait exploser les résultats de l'entreprise. On peut parler de lui de n'importe quel sujet d'histoire. Il est passionnant. Il est gentil. Il est si... Enfin, ils font après des éloges. Mais quand même, il n'a pas de smartphone. Et je leur dis un truc. Je leur dis, et si c'était parce qu'il n'avait pas de smartphone qu'il arrivait à connaître tous ces sujets et à être efficace? Ils me regardent comme ça, ils me disent, au début ils pensaient que je rigolais, je pensais que c'était de l'ironie ce que j'étais en train de faire. Ils me regardent comme ça et ils me font, je fais, non, je vous pose la question, est-ce que c'est pas grâce à ça qu'il est plus efficace que vous tous autour de la table? Parce qu'ils me le disaient comme ça. Finalement, c'était ça, après on a eu une discussion sur ces sujets-là, que finalement, effectivement, le smartphone a amélioré notre vie pour certains petits points, mais pour plein de choses, finalement, on a moins le temps pour lire, on a moins le temps pour faire plein de choses, d'accord? Et à la fin de ce dîner, c'était assez impressionnant que l'un des managers qui était là autour de la table me dit « Jérémy, c'était l'un des dîners les plus décoiffants de notre vie. » Comme ça. Parce qu'on a parlé en fait de ce sujet dont je vous parle maintenant. Et donc en fait, finalement, si on voit en fait l'efficacité des gens, l'efficacité des gens finalement est très très dépendante du moment, du temps de libre qu'elle peut avoir pour aller analyser le monde. Et comme j'expliquais, en fait, c'est qu'en fait, on a un problème aussi, à part le fait qu'on attend une nouvelle de l'extérieur, c'est qu'on est de moins en moins patient avec la réalité. C'est quoi de moins en moins patient avec la réalité? C'est que dès qu'on coince sur quelque chose, d'accord, on fait la queue dans un supermarché, hop, on sort son téléphone. On est dans l'ascenseur, ça prend plus de 32 secondes, hop, on sort son téléphone. On a n'importe quelle chose, certaines fois, on peut étudier, pour les gens qui étudient un peu le Talmud, etc., on étudie le Talmud, on a un truc qui nous coince, hop, pas pour aller chercher la réponse, hein. Non, hop, on va aller sortir. Pourquoi on fait ça? Finalement, parce qu'effectivement, on a l'impression de perdre son temps à rien faire quand on ne fait rien, quand on réfléchit. On a l'impression que, bon, je bloque et je n'arrive pas finalement à trouver la solution à mon problème, ou alors, voilà, la queue, je ne peux pas aller faire avancer plus vite. Donc, je dois absolument consommer quelque chose dans ma vie. Et on oublie parfaitement qu'à ce moment-là, je peux réfléchir et regarder mon caddie, par exemple, et voir si ce que j'ai acheté, finalement, il n'y a pas 80% qui ne servent à rien. D'accord? C'est un exemple, hein. Ou alors, je peux réfléchir de quel cadeau je peux apporter à ma femme ce soir, ou est-ce que mes enfants, je ne vais pas oublier quelque chose qui peut aimer. N'importe quoi qui fait que finalement, voilà, on va prendre de bonnes décisions. Hop, smartphone, réponse à tout, on est obligé de prendre ce genre de choses. Donc, en fait, on a toujours ce côté de vouloir prendre quelque chose pour aller faire profiter plus de la vie. Et si on voit en fait les sages du peuple juif, moi j'étudie avec des gens à Bnei Brak, j'étudie avec plein de gens, mais qui se cassent la tête sur des sujets pendant des heures, des petits sujets. Mais ils détruisent des trucs qui ont l'air, des fois, qui ont l'air même insignifiants, d'accord? Mais ils se cassent la tête pour arriver à résoudre des problèmes. Et je peux vous dire qu'ils arrivent après à des niveaux d'intelligence, des niveaux d'analyse après du monde, l'analyse, enfin, des niveaux de puissance mentale qui sont incroyables. Pourquoi ? C'est qu'ils ont une question. Et si on voit, d'ailleurs, on raconte dans toutes les histoires de sages de la Torah, ou même les sages récents, la plupart des, on raconte énormément d'histoires comme ça, que le Rav marchait dans la rue et on le voyait en fait comme ça réfléchir. Et quand on lui demande qu'est-ce qu'il est en train de, à quoi il est en train de penser, non, j'ai lu un truc hier soir, j'arrive pas à trouver la réponse, j'essaie de trouver. Il a passé la nuit dessus, il a passé le truc, il est à fond dans ce truc-là. C'est qu'en fait, quand on a un problème à une question, on a un problème, on n'arrive pas à résoudre un truc, on n'arrive pas aujourd'hui à cause de justement ce modèle de, on veut du fast-food, on veut en permanence aller avoir la réponse très vite, on veut en permanence avoir les choses à portée de main. On n'arrive pas à se concentrer, à rentrer en profondeur dans les choses. Et c'est très très grave parce que finalement, pareil quand on va être dans le monde de l'entreprise et qu'on va aller analyser un sujet qui peut être très complexe, de stratégie ou pas mal de choses, pareil, on va aller prendre la couche superficielle des choses et on ne va pas rentrer en profondeur dans les sujets parce qu'on n'est plus habitué à ça et finalement on va avoir des résultats moins importants. Donc ça c'est important, le fait de moins être patient avec la réalité. Et le conseil que je donne là-dessus, c'est effectivement quand on se retrouve dans la queue d'un magasin, on n'est absolument pas obligé de regarder son téléphone. Et quand on se retrouve à n'importe quel moment où on est bloqué, etc., on n'est absolument pas obligé de regarder son téléphone. Moi, ce que je dis, en fait, le conseil que je donne, très souvent, et même pour allumer un ordinateur, je dis, avant d'allumer votre téléphone ou avant d'allumer votre ordinateur, vous faites d'abord sur un petit carnet, voilà, ça c'est mon petit carnet que j'ai toujours sur moi, d'accord ? Je définis ce que je vais faire avec, ce que je vais faire sur mon ordinateur dans les minutes qui viennent. D'accord ? Pourquoi est-ce que j'ouvre mon ordinateur ? Pourquoi est-ce que maintenant j'allume mon téléphone ? Si vous définissez ça, effectivement, après, bah voilà, vous allez utiliser votre téléphone de manière efficace. Ça va résoudre le problème que vous venez de noter. Mais sinon, non. Vous allez regarder une vidéo 30 secondes, etc. Vous avez juste perdu un moment de votre temps alors que vous pensiez, au contraire, mieux consommer votre temps. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que quand on est... pourquoi est-ce qu'on veut tout savoir en permanence ? C'est qu'en fait, on a peur pour l'avenir. On a peur, comme j'ai expliqué, on a peur qu'il se passe quelque chose. Et on a peur en permanence qu'un événement, on puisse rater un événement. Il y a quelques semaines, quand j'ai parlé de ce sujet, il y a une jeune fille venue me voir. Il m'a dit, oui, mais monsieur Bérébi, regardez, si on est à la recherche d'un emploi et que l'employeur nous donne une réponse, si on n'est pas devant son mail à ce moment-là, il peut donner le job à quelqu'un d'autre. C'est rigolo. Mais alors déjà, ceux qui connaissent le monde de l'emploi ne fonctionnent pas comme ça. Mais deux, il y a le vrai sujet, c'est que si on a la croyance en Dieu, c'est-à-dire la émouna, la foi, d'accord, le fait de savoir que Dieu est là à nous protéger en permanence et à faire en sorte à ce que nous arrive soit pour le bien, on ne doit pas avoir de crainte comme ça, que quelque chose nous passe sous le nez, qu'une bonne affaire nous passe sous le nez, que le bon offre nous passe sous le nez, etc. On doit être serein, c'est ce que j'ai expliqué. Ça a l'air d'être des grands mots de dire ça. Ça a l'air d'être des très grands mots, mais au final, on n'a pas le choix. On est obligé d'être serein, parce que si on n'a pas serein, c'est qu'on n'a juste pas confiance au fait que Dieu guide notre vie. Et donc voilà, et en fait, quand on est en permanence connecté, on est en permanence à vouloir ne rien rater, vouloir être connecté aux différentes personnes. Et très très souvent, on a aussi un deuxième problème, c'est qu'on va se mettre à moins prier. Pourquoi on va moins prier ? À l'époque, vous savez, les enfants sortaient de la maison le matin, allaient à l'école et revenaient le soir. Pendant ce temps-là, la maman à la maison, ou le papa, ou la personne qui était à la maison, je ne sais pas, elle est féministe ici, c'est peut-être, j'ai peur. Et en France, à chaque fois que je dis des trucs comme ça, où je dis homme ou femme, on me dit, mais pourquoi tu ne parles pas des autres ? J'ai très très peur. Quand l'enfant sortait à la maison, la maman à la maison, je dis à maman, on va prendre ça un exemple, était toute la journée à prier pour ses enfants. J'espère qu'il va bien, j'espère que ça se passe bien, j'espère qu'il étudie bien, j'espère qu'il lui rien arrivé en route, etc. Et prier, chanter, etc. Alors, il y avait bien sûr évidemment des mamans angoissées, ça fait partie des gènes des mères juives. Mais en tout cas, c'était ça, c'était je prie. Quand il y avait une période de guerre, il y avait quelqu'un le papa qui sortait aller chercher des vivres et rentrait, pendant ce temps-là, les gens priaient. D'accord ? Le fait d'avoir en permanence finalement des moments où on ne sait pas ce qui se passe fait qu'on se tourne vers Dieu et on va prier, on va aller demander des choses. D'accord ? Et aujourd'hui, finalement, on n'a plus ça. On n'a plus ces moments-là. Parce qu'effectivement, si on veut savoir si notre enfant va bien, on va lui passer un coup de fil, on va lui envoyer un WhatsApp, on va appeler l'école, on va faire plein de choses. Si on veut savoir si son mari va bien, 14 000 WhatsApp, etc., etc., etc. D'accord ? On est là, donc on va en permanence être dans un mode où je veux savoir maintenant ce qui se passe. Et donc, je ne vais pas à un moment me dire « Dieu, je compte sur toi pour que ça se passe bien. » Non, 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 non. C'est, je veux savoir. Et si je n'arrive pas à savoir, je vais appeler la copine du truc, etc., qui peut être avec la personne en face, etc. Et on est en permanence ce problème-là. Donc voilà. Donc en fait, ça, c'est aussi un autre problème. C'est le fait de finalement, on prie moins. Et ça, c'est finalement quelque chose qui doit faire partie de la vie d'un juif. La vie d'un juif, c'est quelqu'un qui fait peu et qui prie beaucoup. Le Chazon Ish dit que la tfila, la prière, est plus importante que les actions. On a une obligation d'agir, d'accord ? On a l'obligation de travailler, obligation de faire des choses. Mais la prière et le fait de demander à sa réussite est pour l'ensemble des sages du peuple juif depuis toujours. Il n'y a pas de marloquette là-dessus, il n'y a pas de divergence là-dessus. La prière est le plus important. On demande à Dieu de nous aider. Et le dernier problème, c'est que on n'apprend plus à nous débrouiller seul. On n'apprend plus à se débrouiller seul. On est là, en permanence, j'ai un problème, j'ai un truc, paf, je passe un coup de fil à un ami. Ils ont fait une émission, je crois. Après, on a la moindre question qu'on peut se poser. Pareil, on va aller regarder son téléphone, etc., etc. Et donc finalement, on n'a jamais un moment où on va se dire, bah tiens, attends, j'ai pas de plan de la ville, comment je vais me débrouiller avec les moyens du bord pour aller réussir d'aller à un endroit. D'accord ? Moi, je veux vous dire, quand je voyage, je prends un téléphone, un smartphone avec moi. En fait, dans la semaine, j'ai un téléphone comme ça, petit téléphone comme ça. Et en fait, quand je voyage en général à l'étranger, je prends un téléphone sur moi. Et aujourd'hui, j'ai dit, tiens, je vais pas l'allumer depuis ce matin. J'ai dit, est-ce que je vais réussir à m'en sortir ? Et bon, Dieu merci. Alors, une fois, j'ai passé un coup de fil à un de nos collaborateurs qui m'a aidé à trouver un endroit pour prier Mintra. Effectivement, j'aurais peut-être prié, j'aurais eu un minyan qui serait fait au milieu, mais bon, ça, j'ai pas voulu prendre le risque. Mais au final, non, va bien. Ah, mais comment je vais faire avec Uber ? Bon, bah, des taxis. Comment je vais faire avec ça ? Ah, avec la route, tout ça. Bon, c'est débrouillé finalement. Et moi, pourtant, j'étais sûr que j'allais arriver à Paris. J'ai dit non, 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 j'ai besoin d'Uber. C'est sûr. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de relever mes mails, j'ai besoin de ci. Non. Rien, absolument rien. Donc voilà. Donc en fait, il y a un test que je vous demande, que je vous propose de faire. Si vous avez compris le problème, d'accord, cette guerre énorme. Excusez-moi, je vais juste me coucher. Je vais boire un verre d'eau. Je fais une pause de quelques secondes. Pardon. Tu veux parler pendant ce temps ? D'accord. C'est pour réfléchir à la pause. Avoir le temps de... Ouais, non, j'ai tout. D'accord. Ah ouais, c'est clair. On finit dans un quart d'heure, 20 minutes, et après on aura une séance de questions. Et donc, le conseil que je vous donne, c'est d'éteindre votre téléphone la journée, d'avertir votre mère, faites gaffe, et votre femme, votre mari, d'éteindre votre téléphone la journée, de regarder s'il se fait passer quelque chose de grave, si effectivement ça a changé quelque chose dans votre vie, et vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes passé à côté de rien. Et vous allez vous rendre compte du temps libre que vous avez. Incroyable. Là, il va falloir le remplir après. Ça va être un problème. Alors, voilà. Donc ça, c'était sur le sujet du fait d'être connecté en permanence. Et le fait d'être, effectivement, de ne pas avoir le moyen de prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Prendre du recul qui nous permet effectivement d'avoir aussi de se rapprocher plus de Dieu, d'avoir plus confiance en Dieu, de plus prier, etc. Ça a l'air d'être des grands mots tout ça, mais on doit absolument changer ça. Les gdolim de la, les grands rabbinim de la génération disent qu'Internet est l'épreuve de notre génération. est une épreuve, et l'épreuve la plus importante de notre génération. Alors, il y a des gens qui pensaient que c'était uniquement parce que sur Internet, on peut voir des contenus complètement pas cachés, etc., etc. Non. Ça, effectivement, c'est un autre sujet auquel je ne parle pas aujourd'hui, et les gens peuvent savoir tout seuls quel peut être le problème. Mais on parle de, effectivement, on a en permanence des problèmes dont je vous ai parlé là. Et là, maintenant, je vais vous parler d'autres problèmes. Le problème, c'est l'indépendance d'esprit. Le Rambam dit dans Ilkhot Deot, dit que la manière dont fonctionnent les hommes, et un homme, en fait, est toujours attiré par la manière de vivre de son pays et de son entourage. D'accord ? C'est-à-dire que les hommes sont attirés par le fonctionnement de son entourage. Vous avez une bande de copains, une bande de copines. En fonction de la manière dont sont vos copines ou vos copains, vous allez être attiré par plus de choses, d'accord ? Il y a tous mes copains ne mangent pas cachère, donc moi qui mangeais cachère, hop, je vais me faire aspirer par je vais plus manger cachère. Mes copains ne sont pas chômeurs Shabbat, donc hop, je vais me faire attirer par ne plus être chômeur Shabbat, etc., etc. Ou alors, mais en fait, le Rambam dit que on est attiré par les autres, mais on peut attirer dans les deux sens. Donc effectivement, pour le bien et pour le mal. Et donc, en fait, le Rambam dit dans Ilkhot Deot, donc c'est une halakha, d'accord, écrite, texto, et qui dit, l'homme doit faire en sorte à se rapprocher en permanence et être entouré de tzadikim autour de lui. De gens qui sont des gens sages autour de lui. Des gens qui prennent des bonnes actions. Et de s'éloigner des rechaim, des gens qui font des mauvaises choses. Et il dit, le Rambam dit, si on ne trouve pas dans son pays, on déménage. Si on n'a pas la possibilité de déménager parce qu'on est malade ou quelque chose, c'est exactement ce qu'il dit, hein, et ben, on s'enferme chez soi, on reste seul. Ou alors on essaie d'aller dans une forêt. Si on a effectivement quelqu'un qui nous en empêche, on n'arrive pas à se séparer, ben on va dans une forêt vivre seul. D'accord ? L'importance d'être entouré de gens bien. Alors à l'époque, quand le Rambam a écrit ça, l'entourage était qui ? C'était les gens qu'on rencontrait à la synagogue, son pâté de maison, on va dire. D'accord ? C'était pas très, très, très large. Aujourd'hui, notre entourage, c'est 100% de la population mondiale. C'est-à-dire, avec Internet, notre entourage, les gens qui nous influencent, sont 100% des gens dans le monde. D'accord ? Évidemment, là-dedans, il y a beaucoup de mal. Il y a beaucoup de gens qui pensent mal, qui pensent bêtement. Il y a beaucoup de gens qui font des choses bêtement. Et très, très peu de gens qui font des choses bien. Et le fait d'être en permanence, en fait, sur Internet, on pense que finalement, ça ne nous transforme pas. On pense qu'on n'est pas là, que finalement, on a des idées qui restent les mêmes et qu'on a effectivement chacun ses idées propres. D'accord ? On va appeler ça comme ça. Mais au final, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors moi, j'ai une anecdote que je donne toujours sur ça. Il y a un an, il y a eu le patron d'Orange, Stéphane Richard, a fait une bourde en Égypte, je ne sais pas si vous vous souvenez, par rapport à Israël. D'accord ? Et il y a eu en fait une avalanche de gens de la communauté juive qui ont commencé à insulter Stéphane Richard, le groupe Orange. Il y avait des croix gammées qui circulaient sur Facebook, sur Twitter, sur le croix gammée sur le logo d'Orange. On a sorti le passé du grand-père de Stéphane Richard. On a sorti des horreurs, je vais vous dire des horreurs. Et j'arrivais pas à trouver une personne autour de moi qui n'était pas en train de faire ça. Qui n'était pas en train de rentrer, les ministres, Netanyahou et trucs, quelle horreur, il veut boycotter Israël, dadada. Moi, ce sont des gens, Stéphane Richard et les gens de chez Orange, sont des gens avec qui je suis très proche depuis 20 ans. C'est-à-dire que la vice-présidente d'Orange vient chez moi à la maison à Bnei Brak avec mes enfants autour. D'accord, juste pour vous dire. Ces gens-là sont des gens qui ont énormément aidé Israël et qui continuent à aimer Israël, mais qui adorent Israël. Vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne parle pas des gens juifs à l'intérieur de Orange, je parle de gens qui sont management qui arrivent et qui vont faire des pèlerinages en Israël, qui amènent leur famille en Israël, qui vont montrer la beauté d'Israël, qui montent des fonds d'investissement dédiés à Israël, etc. Ces gens-là qui étaient critiqués à ce moment, au moment où il y a eu cet événement, sont tous dirigés par Stéphane Richard, qui est donc cette personne. Et ces gens-là adorent Israël. Et là, on est parti dans un moment où ce qui s'était passé, c'était quelques personnes ont commencé à dire, et Netanyahou aussi a dit, donc Netanyahou dit, c'est que c'est vrai, d'accord ? Et on a commencé à s'emballer pour aller dire du mal de ces gens-là. Et je peux vous dire que les gens en interne, moi j'ai des amis qui sont en interne, étaient en train de pleurer. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ça fait 15 ans qu'on bosse sur Israël. On a monté des choses, on a sponsorisé des événements, etc. Ils étaient complètement dépités. À un moment, moi j'ai écrit un article qui a été où j'ai raconté ce que je viens de vous dire, d'accord ? La relation entre Orange et Israël, etc. Vous pouvez imaginer, je me suis fait traiter de collabo. C'est normal, ça doit être tes clients, ils doivent te financer. J'ai jamais touché un centime de la part d'Orange. Ils m'ont offert une BD qui est Rabbi Harvey. Je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée de Rabbi Harvey. Très sympa. Et c'est le seul truc que j'ai eu en 20 ans de collaboration avec Orange. Donc absolument aucun. Mais je me suis fait insulter. Personne ne s'est dit, peut-être qu'on a été loin là. Peut-être que finalement, non, peut-être qu'il a fait une bourde, mais bon, c'est pas très grave, etc. Non, on est parti comme ça en masse. Dans des événements comme ça. Moi, je dis que quand vous voyez, en général, un mouvement de masse, il faut aller de l'autre côté. On dit quand il y a des manifs qu'on peut avoir dans la rue, etc., le mouvement de masse, très très souvent, ça ne va pas dans le bon sens. Très très souvent, ça ne va pas dans le bon sens. Donc voilà, le fait d'être des moutons, c'est quelque chose de super important. Et on est aujourd'hui entouré en permanence sur Facebook, sur les réseaux sociaux de gens stupides, vraiment en permanence de gens stupides. Et on doit faire très très attention à ce qu'on fait et on doit pas se dire non, je vais pas me faire influencer, maintenant je vais trier, etc. Non, 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 tout ce qu'on est en train de lire est en train d'influencer notre esprit en permanence. Donc il faut s'en éloigner au maximum. Il y a les problèmes de lashon hara en public qu'on a sur Internet. On a sur Internet, on pense que puisqu'on nous donne la possibilité de commenter sur des sites Internet d'actualité, puisqu'on nous donne des commentaires sur Facebook, commenter, qu'on a le droit d'aller critiquer les gens à l'infini. Ça peut être un rabbin, ça peut être un ministre, ça peut être n'importe quoi. Je vais aller mais me lâcher. C'est un pauvre type, de toute façon sa mère a fait ça, et de toute façon il a fait de la prison, etc. etc. Enfin, je sais pas si vous connaissez, vous avez déjà étudié. Vous savez qu'à la chôte de la lashon hara, on entend parler. On entend parler depuis longtemps. La loi de la parole, d'accord ? Font partie des bases du judaïsme, d'accord ? C'est les choses, on dit que c'est une des épreuves aussi de notre temps, c'est les lois du lashon hara. Notre temps, c'est-à-dire les 100 dernières années, d'accord ? Et là, on est en fait sur Internet, on est là à se déchaîner sur des personnes. Se déchaîner sur des personnes. Très très souvent, qu'est-ce qu'on va même faire ? Alors, pour un autre truc, c'est l'exemple que je donne aussi, c'est un jour, on m'a envoyé une capture d'écran sur Facebook d'une discussion. Rav Lemel a fait une conférence sur l'Aliyah, qui est disponible sur YouTube. Exceptionnelle, vraiment très intéressante sur les challenges de l'Aliyah. Il faut bien de temps en temps parler des challenges de l'Aliyah. Et quelqu'un sur Facebook dit, regardez, Rav Lemel est contre l'Alia. Quoi ? Quelle horreur ! Je lui retire son titre de Rav. De toute façon, c'est une catastrophe. De toute façon, à chaque fois, je l'aime pas trop. De toute façon, il parle comme si. De toute façon, ils sont partis à déchaîner. Déjà, en plus, les réactions, c'était genre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes après. D'accord, voilà, Rav Lemel, on parle de Rav Lemel. T'as entendu ? D'accord. Et 1 minute, 2 minutes après, d'accord ? C'est-à-dire que les gens n'ont même pas été voir la vidéo. Donc, il y avait le lien vers la vidéo, elle dure 1h30 la conférence, etc. Non, non, ils n'ont pas été voir. Paf ! On a été se déchaîner. Et je vous parle de gens, certaines personnes qui étaient dans ce fil-là sont des rédacteurs des journaux juifs que vous lisez là autour de vous, d'accord ? J'en ai vu un qui était dehors. D'accord ? Ce sont les rédacteurs de ces gens-là. Paf ! Non, aucun problème. Paf, on tape. Interdit, le lashon hara est interdit, d'accord ? On a droit au lashon hara pour des circonstances extrêmement pointues. On a le droit de dire du mal de quelqu'un ou de dire la vérité qui peut être le mal sur quelqu'un uniquement dans des circonstances extrêmement pointues et uniquement si ça a un but positif. D'accord ? C'est des lois en soi. Il y a aussi un autre sujet qui est ce qu'on appelle l'albanat panim. C'est le fait de faire honte à quelqu'un en public. Je vous passe un peu le sujet, mais en gros, David Ameller a des discussions avec des personnes et étrange que faire honte à quelqu'un en public, faire honte au point de vraiment lui faire du mal en public, et Chayav Mita, donc c'est quelqu'un qui... Attendez, je vous reprends. Mabine Penechavero. Non, voilà, non. Enfin, lui, il parle pas de ce qu'il est Chayav Mita. En fait, il dit, En lochel akalom haba, il n'a pas de part au monde futur. Donc, on est là, on va au Gan Eden, etc. On imagine, après la mort, on fait des grandes prières, on va faire des grands cocktails, la bracha pour le défunt. Non, non, il a fait il y a 10 ans, il a fait du mal à quelqu'un, lui a fait honte en public. Il n'y a pas de l'olam haba. C'est ce que dit le Talmud. Pareil grave, ok? C'est très, très grave. Et là, on est là, pareil. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est tous les jours, toutes les semaines, vous avez des gens qui se suicident, des jeunes garçons qui se suicident, des jeunes filles qui se suicident parce qu'on leur a fait honte devant tout le monde. Je ne sais pas que ça se passe entre juifs, ça se passe entre tout le monde, d'accord ? Mais on détruit une personne en disant, puisqu'on nous donne la parole, on y va. Alors certaines fois, même ça se fait dans des réunions, comme ça, on peut avoir quatre copains qui sont là, il y en a un qui dit une bêtise, une blague pas drôle, on va détruire cette personne, ça peut être aussi ce genre de choses. Mais sur Internet, on a en permanence, on nous donne la parole, donc on a en permanence ce genre d'épreuve qui est de effectivement vérifier qu'on va pas dire du mal de la gens. Il y a le Rambam qui dit « Le'olam yarber adam beshtika velo yedaber ela obedavar chokhma obedvarim shesarech lahem lechaye gufo » Un homme doit en permanence augmenter son silence et ne doit parler uniquement pour des paroles sages ou des choses dont il a besoin pour son goût. D'accord ? Je vous passe après, il a d'autres choses sur le sujet. D'accord ? Les Pirkei Avot disent la même chose. On doit parler le moins possible. On n'est pas là, alors vous êtes content de commenter l'actualité, et des fois c'est des hommes politiques, et des fois c'est des trucs, etc. L'idée, des fois, vous dire non, mais bon, c'est pas grave, il n'est pas juif, il n'est pas si, c'est Trump, c'est petit, c'est ça, c'est truc. D'accord ? On rentre dans un modèle où finalement on passe notre journée à aller écraser des gens. Au final, on se met à écraser tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et donc ça, c'est une énorme épreuve qu'on a effectivement sur Internet et sur le sujet de la Lashon Hara. On a, comme on expliquait, on a aussi le problème d'être moins efficace dans son travail, dans sa concentration quand on a un smartphone entre les mains, quand on va consulter les réseaux sociaux, etc. On ne sait pas, très peu de gens le savent, mais les lois du monde du travail sont très 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 nombreuses dans la Torah, dans le Talmud. Et c'est pas juste un passou qu'on a fait un petit Dvar Torah pour le Shabbat, c'est des bouquins entiers de lois du monde du travail. Par exemple, si vous êtes employé dans une société et que la veille au soir, vous allez vous coucher tard, c'est pour ça que je vais vous laisser partir bientôt, et vous allez vous coucher tard et que le lendemain vous arrivez fatigué, ça s'appelle que vous avez volé votre employeur. D'accord ? Lui vous a recruté pour que vous soyez quelqu'un en forme avec vos capacités physique et mentale totale. Et si vous allez vous coucher tard, non, vous êtes un voleur. Si vous êtes là en permanence à aller dire « Mais c'est pas grave, je vais consulter mon smartphone, je vais consulter un peu mes mails, là je vais répondre à un mail personnel, je vais passer un coup de fil à ma voisine, il y a ma femme de ménage qui est en retard, et il y a mon truc, etc. etc. » Ça s'appelle du vol. Alors comment faire pour pallier à ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça s'appelle du vol, mais aujourd'hui, les sociétés sont plus tolérantes. Avant, c'était première minute jusqu'à la dernière seconde. Il y a des Mishnayot dans la loi qui montre comment les gens faisaient un Birkat Amazon plus court quand ils travaillaient parce qu'ils ne pouvaient pas voler du temps de leur employeur. Il y a un Birkat Amazon qui s'appelle le Birkat Amazon à 4 sars. D'accord ? Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Parce qu'effectivement, l'employeur est un peu plus lâche, nous laisse un peu de temps pour le post-café, etc. Mais si vous voulez être honnête et ne pas voler votre employeur, ou voler même votre associé, si vous êtes associé, puisque voilà, votre associé compte sur vous, etc. aussi, vous devez absolument aller voir votre employeur et dire « Voilà, je vous demande s'il vous plaît de me donner des règles. J'ai le droit de consulter quand mon téléphone, j'ai le droit de consulter quand mon smartphone, j'ai le droit de consulter quand Facebook, j'ai le droit de consulter ça. » Ça peut vous choquer de dire ça, hein, mais quoi je me mêle? Pourquoi je vais demander à mon patron? J'en ai rien à faire, mon patron. Non, c'est qu'on a un risque de voler. Et si vous ne demandez pas, effectivement, vous n'allez pas savoir comment agir. Vous allez faire des choses, vous allez faire plus de en général, on est obligé de faire plus de fautes qu'autre chose. Aujourd'hui, dans la nouvelle loi du travail en France, il y a effectivement tout un chapitre en fait sur ce sujet de la connexion. Est-ce que les employés on va pas leur bloquer leurs emails après les heures de travail? Il y a pas mal de sujets effectivement. C'est quand est-ce au moment du travail est-ce qu'on a le droit de consulter ses messages personnels ou pas, etc., etc. Ça rentre un peu dans les sujets du moment. Mais maintenant, nous, chacun d'entre nous aujourd'hui, on doit chacun aller voir les gens avec qui l'on travaille et aller définir des règles. Sinon, on est des voleurs. Et comme j'ai expliqué, si on réduit de 26% sa concentration, si on a un smartphone dans l'environnement, finalement, on a donc 26% d'efficacité en moins. 26%, c'est quand même un quart de notre journée, un quart de notre semaine, un quart de notre vie. Et le dernier point, non, j'ai encore deux points, pardon, très vite. Trois points, très très vite. Désolé, hein. Mais bon, vous allez dormir tôt. On a aussi un vrai problème, c'est qu'un juif doit en permanence réfléchir et définir ce qu'il va voir, ce qu'il va faire juste après. C'est ce que j'ai expliqué au début de cette conférence. Quand on est dans un modèle où ce sont des algorithmes qui vont aller définir ce que vous allez voir après, bah, en gros, vous donnez la main à l'algorithme de Facebook, à l'algorithme de YouTube, à l'algorithme de trucs, de définir votre vie permanente. Et si c'est comme ça, obligatoirement, vous allez fauter. Vous allez fauter en voyant des choses qui ne conviennent pas, des choses qui peuvent être de la kfira, qui peuvent être des choses qui vont contre la pensée juive, qui peuvent être des choses problématiques dans le monde de la sniout, il peut y avoir plein de choses. qui pour certains ne sont pas des problèmes, malheureusement, mais en tout cas qui sont des vrais gros problèmes. Mais en tout cas, vous ne contrôlez pas votre vie, donc au final, vous êtes porté, vous êtes obligatoirement passé dans un monde de misère. C'est un peu ce que disait le Ramchal tout à l'heure, c'est si on n'est pas en permanence à aller prendre des choix, de vérifier que chaque chose qu'on est en train de faire est positif, à ce moment-là, bah, on va obligatoirement tomber. Et donc là, c'est aujourd'hui, c'est ça, c'est des algorithmes qui vont aller définir les publicités que l'on voit, les articles que l'on va avoir, les recommandations, on va sur Amazon, on va nous recommander des choses, etc., etc. Des fois, ça peut avoir des intérêts, effectivement, mais en général, ce n'est pas fait pour notre bien. Un autre sujet, c'est aussi, alors aujourd'hui, on a la chance, effectivement, a priori, d'avoir la chance d'être connecté plus à nos amis, d'accord ? On a plus d'amis, on les voit plus, on est plus connecté, etc. Et moi, en fait, je me suis dit, finalement, quand je rencontre, finalement, je suis moins connecté que d'autres, quoi qu'on en pense. Donc pas Facebook, et donc il y a plein de choses qui se passent dedans. Les mails, mon téléphone, personne n'a mon numéro quasiment, etc. Donc bah, vraiment, je suis bien connecté. Et finalement, je me suis rendu compte que quand je rencontrais mes amis, mes vieux amis, et je passais du temps avec eux, les discussions étaient beaucoup plus profondes, étaient beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus profondes que si effectivement c'était des gens que je voyais tous les jours, avec qui j'étais en contact tous les jours. Et à un moment, j'ai raconté ça à un ami, et il m'a dit, mais bien sûr, c'est le pasouk de Michelet, le roi Salomon a dit, « Oker aglecha mi bet re'echa, pen isba'echa usanecha, usna'echa. » Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, « Oker aglecha », ça veut dire, « Rends rare tes jambes, donc rends rare tes visites dans la maison de ton ami, de peur qu'il se rassasie de toi et qu'il te haïsse. » D'accord ? En gros, donc si on est trop souvent avec ses copains, avec ses trucs, à un moment, ils vont en avoir marre de nous. Rachid dit à un moment, je le traduis directement, « Rends rare tes visites. De même que tu dois trouver du miel doux à ton palais, tu dois t'abstenir d'en manger au point d'être rassasié, d'en vomir. Ainsi, espace tes visites, même si tes amis t'affectionnent. Évite d'y aller jour après jour de peur qu'ils se lassent de toi et en viennent ainsi à te haïr. » Pareil, le fait d'être avec des amis tout le temps, fait qu'au final, on éprouve de la jalousie, on éprouve des confrontations, etc., etc., et au final, les relations sont beaucoup moins fortes. Et évidemment, le dernier point, c'est... Je suis très proche de beaucoup de rabbanim, avec qui je demande, c'est quoi les gros problèmes qu'ont aujourd'hui les familles ? Pourquoi on vous téléphone ? Et en gros, le gros sujet, c'est toujours, mon mari est sur Internet, il communique avec une femme, il s'échange des photos de nos enfants, il s'échange notre lieu de voyage... Qu'est-ce que je fais, rabbin ? Ou alors, ma femme est sur Internet, elle est exactement en train de communiquer avec des gens, et quand je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, t'inquiète pas, on se connaît de l'école, etc. Très souvent, beaucoup de toi, et même dans le monde orthodoxe, où il y a eu des gens qui ont commencé à utiliser Facebook, etc., etc. Ça se finit mal. Ça se finit très, très, très mal. Donc on est là, on peut se dire, voilà, nous on est là, on a une vie de couple, on adore notre femme, on adore notre mari, d'accord ? On peut se dire, ok, on est dans le monde moderne, tout va bien, comme on va vivre sans Facebook, c'est bien, on est en contact avec les voisines, avec les copines, avec le si, etc., avec les copains, on nous montre où on était en vacances, peut-être qu'on va réussir à trouver un café, on peut aller ensemble, etc., etc. Ou alors on peut se dire, ça je vais vous dire, c'est la majorité des appels que reçoivent les rabbinim aujourd'hui, Rav Lemel peut confirmer que c'est un vrai, vrai problème, c'est les couples qui sont détruits par ces relations-là. Et je ne parle pas de gens qui ont été sur Mythique, d'accord ? Pas de gens qui, effectivement, des couples qui ont déjà cherché à faire des choses. Shalom, il y a des publicités dans la rue, dans les rues de Paris, aux horreurs. Mais on parle de gens, non, qui avaient des relations normales. Ben, on discute, on commence à s'échanger des petites photos, des petits smileys, on se poque, on se truc, on se like, on se truc, etc. Effectivement, ça se passe très, très mal. Donc voilà, moi, le vrai sujet, je crois que Rav Lemel disait, je me suis peut-être laissé le dire, mais et j'arrête là. C'est que Rav Lemel a donné un bon conseil à un moment, par exemple, sur les emails et les correspondances. C'est que dans leur famille, ils échangent les mots de passe entre tout le monde. Donc en fait, il y a un seul compte où il y a des comptes partagés. Donc chacun peut voir les messages qu'échange l'autre, etc. Donc au final, il y a transparence totale. Il n'y a pas de petits secrets derrière. Et je pense que c'est effectivement un très très bon conseil. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pu vous. J'espère que j'ai pu vous prendre conscience de ces dangers. J'espère que vous prendre conscience que c'est une énorme guerre. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Et moi, j'ai tout intérêt, c'est mon business, de faire en sorte à ce que les sociétés Internet grandissent et que tout va bien et qu'on passe plus de temps, etc. on a tous intérêt à ça, mais au final, non, on est devant la guerre la plus importante et c'est à nous de se battre contre cela. Merci.
Jérémy, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, comme promis, on va avoir quelques minutes pour des questions dans un second temps sur le lien Internet. On avait annoncé qu'il y aurait en effet certains cocktails payants, parce qu'il faut bien qu'on paye quelque chose comme les autres. Donc on a un certain nombre de personnes qui ont réservé. Donc c'est toutes les personnes qui ont réservé, après les tables par les autres viennent pour monter. On doit, je crois, encore avoir une quinzaine de places maximum pour les personnes qui ont envie de faire un after et de continuer la conversation avec Jérémy. Mais on a tout de suite, donc, quelques questions. Allez-y, on est là pour vos côtés. Alors, vous avez allez-y, levez-vous, faites petit là à zéro, s'il vous plaît, un instant.
Oui, je répéterai la question pour ceux qui n'ont pas en face.
Merci beaucoup. Si je vous présente sur le point de perdre de temps et de temps que vous pouvez consacrer à la réflexion.
Super question, d'accord.
Bien, la question est de savoir est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour certaines choses qui seraient positive. Par exemple positives.
Voilà. Donc effectivement, quelque chose de positif, donc on a un moment un temps perdu, un temps libre, est-ce qu'effectivement on n'a pas intérêt à se dire bah tiens maintenant je vais consulter une halakha, je vais consulter une Mishnah, etc. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Comme on l'a dit, le smartphone est un grand piège. Et on est en permanence attiré par d'autres choses. Donc effectivement, on va l'ouvrir pour ouvrir le Mishnayot, et paf, on aura vu le message de son copain qui aura dit ce qu'on sort ce soir, et on va commencer à rentrer dans des choses. On va aller trouver la solution. Voilà, j'ai un livre d'Alaha, ça s'appelle du papier, ça fonctionne très très bien, c'est génial. Et voilà. Effectivement, quand on a du temps libre, c'est pas sur le smartphone qu'il faut aller le chercher. Et donc avoir toujours effectivement quelque chose à lire sur soi, c'est effectivement quelque chose potentiellement important.
Juste, je me permets de rajouter, on est aujourd'hui en effet en train de recevoir toutes sortes de messages en tout genre, même des messages de Torah, et qui souvent sont totalement inexacts. Et aujourd'hui, quand il faut être très clair, on a des hausses dans tous les domaines, et avant on a vu sur Internet, tel rabbin a dit, telle chose a dit, telle personne a dit, et ça devient tout et n'importe quoi. On a quasiment pris le filtre pour savoir si d'abord ce que l'on dit au nom de certaines personnes est exact. Et certaines personnes parlent, utilisent la caisse de résonance d'Internet pour faire entendre une voix qui parfois n'est pas nécessairement celle, en tout cas, que la tradition nous donne. Donc là-dessus, on a une nécessité de filtre. Mais si je peux me permettre, lorsqu'on a du temps, on peut aussi s'arrêter et prendre le temps de penser par soi-même et de réfléchir. Ça fait bonne mal. Autre question ? Oui, au fond, monsieur. On fait 6 000 de questions.
C'est le chef.
Bonjour Jérémy. Vous avez parlé de l'hémorragie des pêches.
De
l'hémorragie des pêches.
Ouais.
Et j'avais deux points. Je pense que tout un individu doit prendre un peu avec une institution. C'est ce qui est plus difficile, à mon avis. Et j'avais deux sujets. Le premier sujet, c'est de dire que c'est un sujet algorithmique. Et cette liaison entre l'algorithme et les péchés, quand on est amené justement à suivre cet algorithme, quelle est votre relation en fait, pas sur la vie santé, en ce moment, finalement, on essaie de créer des algorithmes pour aider les gens à mieux se soigner. Est-ce que ce lien n'est pas existant? Et la deuxième question est plus personnelle, où j'ai investi un an dans le numérique, comment vous vivez ça en fait aujourd'hui à.
Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déchouva dans cette démarche que vous avez aujourd'hui, après les différents
investissements que vous avez?
Comment est-ce que vous continuez toujours à investir?
Non.
BFM n'est pas là, il va pouvoir nous dire vraiment ce qu'il en pense.
Première question sur la e-santé. La e-santé est un challenge. Donc, en fait, effectivement, aujourd'hui, on arrive à agréger de la data, de la donnée provenant de n'importe quel de votre smartphone, des montres, de plein de, voilà, de tous les bracelets Fitbit maintenant qu'on peut avoir ou des choses comme ça. On arrive à agréger plein de santé. J'ai déjeuné justement avec un des patrons d'une grande banque aujourd'hui et qui me montre son application WeThings avec toutes ses données de santé. Il me dit, mais tu te rends compte si ça tombe entre les mains de mon assureur? Et en fait, c'est pas une blague, parce que les assureurs sont en train de faire tout leur possible pour avoir accès à ces infos, de manière légale, mais avoir accès à ces infos. Alors, soit ça va être des infos qui vont être non identifiées, c'est-à-dire pas nominatives, ça va être ça a priori au départ, mais à un moment ou à un autre, ça va être oui, je veux donner accès à mon assureur, comme ça j'ai une prime de 50 euros de moins, je vais payer 50 euros de moins ma prime d'assurance, etc. Donc en fait, il faut qu'il y ait une régulation quelque part sur ces sujets de data, qui est un sujet le plus important du moment. Ce qui est très important, il faut savoir qu'aujourd'hui, Google, malgré que Google est une société qui aspire à la data pour nous donner de l'info publicitaire, 86% des gens en France font confiance en Google. D'accord ? Je suis prêt à donner mes informations à Google pour avoir des données, pour avoir la data, pour que Google améliore finalement mes résultats de recherche, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? C'est finalement, à un moment, Google a même voulu lancer Google Santé, etc. Bon, ça, c'était, ils ont eu quelques soucis à un moment. Mais on est effectivement en train de se dire, on va faire confiance à des entreprises qui vont aller nous apporter un meilleur service. Mais à un moment, si on fonctionne dans un modèle où toutes ces données-là sont ouvertes, on est dans un modèle absolument horrible pour les gens qui vont mal. Quelqu'un qui va tomber malade, par exemple aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, il y a très souvent, on vous demande de donner accès à Google. Quand vous utilisez Google pour vous connecter à un service tiers, on vous dit le service veut avoir accès à votre boîte mail. D'accord ? Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous faites ça, vous êtes en train de donner accès à tous vos mails, dont les résultats de laboratoire de votre prise de sang. Et si, chas v'shalom, il y a un moment, une mauvaise chose à l'intérieur, où il y a une entreprise qui peut être au courant immédiatement de ce qui se passe. D'accord ? Et vous lui avez donné accès. Donc, même s'il y avait des lois qui empêchaient de faire ça, il n'y a aucune loi qui va dire si la personne est consentante, ben, elle ne pourra pas. Non, non, non. Donc, je pense que là, on doit être un peu parano, pas trop. Mais effectivement, il y a un vrai challenge. Je pense qu'en général, la e-santé, il va y avoir énormément de superbes découvertes qui vont être faites grâce à ça. Mais par contre, il va y avoir en permanence des sujets de tiers de confiance, de choses comme ça. C'est un énorme sujet que je connais très bien. Et si, voilà, si c'est un sujet sur lequel vous travaillez, on peut en parler. Le sujet de la tchouva. Un homme juif, et je précise juif, d'accord, doit être en permanence en train d'essayer d'améliorer sa vie. D'accord ? On dit, il y a une Gemara qui dit que, la Gemara, on dit qu'il y a un ange qui amène avant la naissance devant Dieu. Cet ange s'appelle Laila. Il amène devant Dieu le fœtus et il pose trois questions à Dieu. Il va dire, est-ce que ce type-là va être chacham ou tipesh, sage ou bête? Est-ce que ce type-là va être gibor chalash, est-ce qu'il va être costaud ou faible? Est-ce que ce type-là va être achir ou ani, riche ou pauvre? Et Dieu, donc, définit avant la naissance toutes ces réponses. Choquant, n'est-ce pas? On sait déjà, avant la naissance, il est déjà défini si quelqu'un va être riche ou pauvre. Et la Gemara demande là-bas, elle dit, mais et pourquoi pas tzadik ou racha? Est-ce qu'il va être un tzadik ou un racha? Et la Gemara dit là-bas, qu'est-ce que Rabbi Hanina? Amar Rabbi Hanina, akol bide shamaim chutz mirat shamaim. Tout provient du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, dans notre monde, dans notre vie, on est en permanence face à des épreuves. Et des épreuves, ce sont des épreuves très, très, très fines. C'est est-ce que je vais donner un smartphone à mes enfants? Par exemple, tout bête. Mes copines le font, mes copains le font, nanana. Je donne un smartphone à mes enfants. À ce moment-là, on a une vraie question. C'est si je le fais, est-ce que c'est juste parce qu'ils me saoulent et ça va les occuper? Ou quand je vais leur mettre la télé, je vais le mettre devant la télé, d'accord, même sujet. Ou est-ce que je fais ça parce que ça va améliorer mon service divin, ça va améliorer ma relation à Dieu, ça va améliorer ma manière d'avoir mis, ça va améliorer même la qualité de mes enfants dans l'avenir, d'accord. Donc en fait, on doit être en permanence, finalement, donc, dans notre vie, tous les points sont déjà fixés, sauf celui-là de prendre oui ou non les bonnes décisions. Donc, en fait, quand on étudie, pourquoi on étudie la Torah finalement? Pourquoi on étudie la Torah? Pourquoi on étudie, on est en train de se casser la tête sur des fois sur des choses qui ont l'air simples et qui ont l'air pas importantes? C'est qu'en fait, on nous apprend à apprendre et à étudier et à analyser n'importe quoi. Et donc, effectivement, moi, quand je suis effectivement dans le monde de l'Internet et j'ai avec le monde de l'Internet, à un moment ou à un autre, je commençais à me rendre compte qu'il y avait plein de choses, de boîtes dans que je regardais devant moi, qui commençaient à servir absolument rien du tout. Quand j'étais sur Facebook, il faut savoir comment j'ai quitté Facebook. Un jour, ma fille tape à ma porte, d'accord, et je lui dis, chérie, je suis désolé, je ne peux pas te parler, je suis occupé. J'étais où? J'étais en train de répondre à un commentaire sur Facebook. C'était en 2012. J'ai dit, ma fille vient me parler, a un truc à me dire. Je vais arrêter, j'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de lui dire? Mais vraiment, mais ça a pris comme ça, un flash comme ça. J'ai immédiatement appelé Rav Ben Chetrit, avec qui j'étais très proche, et je suis toujours très proche, Baruch HaShem. Rav Yechiel Ben Chetrit, je lui ai dit, voilà, j'ai une vraie question, j'ai un problème. Est-ce que maintenant je suis sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui me suivent, beaucoup de gens qui suivent, je veux parler de Torah, je veux parler de sujets, etc. Mais par contre, regarde ce que je viens de faire, regardez ce que je viens de faire. Je sens que là, ça me fait du mal, je sens que je perds du temps, je sens que je perds d'efficacité, etc., etc. Qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai décidé, on a décidé ensemble, on a passé 30 minutes à échanger sur ce sujet. Est-ce que je dois quitter Facebook ou pas Facebook? J'ai décidé de quitter Facebook. D'accord? Donc, on est en permanence finalement dans notre vie, on doit analyser ce qu'on est en train de faire et voir que si quelque chose finalement entraîne une mauvaise chose, comme là, j'ai dit à ma fille d'aller voir ailleurs, qui est très grave, c'est très très grave ce que j'ai fait. Et là, pour moi, il faut évoluer. Et ça, la vie d'un juif, c'est ça. C'est quoi? Pourquoi on a Rosh Hashanah chaque année? Pourquoi on fait Chet Bon Nefesh? On renouvelle sa réflexion? On est là en permanence. Allez, on repasse. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que j'habite au bon endroit? Est-ce que mes enfants sont dans la bonne école? Est-ce que moi, j'étudie assez? Est-ce que moi, j'étudie les bons sujets? Est-ce que j'ai bon rabbanim? Est-ce que j'ai bon entourage? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, quand les gens me disent, mais à quel moment tu as fait tchouva? Ils me demandent à moi, à quel moment tu as fait tchouva? Moi, je viens d'une famille qui était pratiquante très light au départ et on a évolué tous ensemble. Mais quel moment j'ai fait tchouva? Tout aujourd'hui, hier matin. Chaque jour, j'apprends à évoluer peu par peu. Vous voyez? Donc c'est ça en fait la vie d'un juif. Donc c'est pas il y a eu une catastrophe qui s'est passée. Non, il y a eu des choses très. Internet m'a permis de faire beaucoup de choses que je n'aurais pas pu faire, peut-être. Est-ce que peut-être j'aurais fait mieux sans Internet? J'en sais rien, je peux pas le savoir. De toute façon, c'était défini. Est-ce que riche, pas riche, pauvre, pas pauvre, c'est déjà fini. Mais par contre, maintenant, voilà, l'analyse, on doit la faire tous les jours. C'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui.
Alors, encore deux questions.
Bonne question. C'est une bonne question.
Ouais. C'est comme l'imprimerie. Hein.
Ouais. Tu veux répondre à ça? Vas-y. Je vais laisser répondre pour après, je pars.
La question que tu poses est très simple, c'est comme l'imprimerie. C'est-à-dire, toute technologie telle qu'elle soit, à un moment, peut avoir deux effets, un effet pervers et un effet positif. Tout le problème du libre arbitre, c'est de savoir poser les cadres et les limites. Dès le moment où on est dans cet univers, un livre, ça peut être des BD que l'on va lire encore à l'âge de 35 ans, ou alors des BD que l'on lit à l'âge à laquelle on lit des BD, et à un moment, un livre que l'on va lire parce qu'il a du sens, il nous remplit. Et je crois qu'en vérité, c'est nos choix quotidiens de savoir quelle est l'utilisation optimale que je vais faire en fonction du moment dans lequel je vais. Je pense que tu veux rajouter quelque chose?
Non, quelques secondes. Sur la technologie, comme j'ai expliqué là, aujourd'hui, j'ai parlé de l'Internet et de la connexion illimitée à Internet, d'accord? J'ai un MacBook Pro, là, le nouveau modèle qui est dans ma sacoche, superbe. D'accord? La technologie, moi je suis un geek, je vis avec la technologie, d'accord? Mais il y a des choses qui sont négatives et des choses qui sont positives. Donc à nous de faire, d'investir et de notre temps et nos efforts pour aller faire des choses positives. Moi j'ai pas créé Snapchat par exemple, d'accord? J'aurais pas créé Snapchat. Moi il faut savoir que je sais pas si vous connaissez My Major Company par exemple en russe. Quand My Major Company s'est fondée, d'accord, ils m'ont demandé de faire partie des fondateurs. Ils ont voulu me donner des parts de la boîte pour faire partie des fondateurs. J'ai appelé mon RAF, je lui ai dit, regardez, c'est un truc de musique. À l'époque, c'était que de la musique. Produire de la musique, etc. Là, bon, je la sens pas trop, quoi. Il me dit, ouais, pas de problème, tu refuses. On m'offrait des parts de la boîte, d'accord. J'ai perdu beaucoup d'argent sur ce truc-là. J'ai pas perdu, j'ai gagné beaucoup d'argent là-haut de ne pas avoir accepté ça. Vous voyez? Donc en fait, c'est le fait de faire le tri. Dans quoi j'investis, dans quoi je mets mon temps, etc. Mais c'est un vrai, vrai problème, parce qu'effectivement, se dire, est-ce que ce que je fais est utile?
Si je peux me permettre juste de rajouter, je suis en contact, entre autres, avec quelqu'un qui était PDG d'une très très grosse structure israélienne, quelqu'un qui était patron d'une des tours de Tel Aviv, qui était un monsieur pratiquant, et avec qui on étudie ensemble depuis près de 15 ans, tous les dimanches matins, très tôt au téléphone. Un jour, il m'a dit, voilà, ma société pourrait éventuellement investir dans un satellite, mais je me rends compte que ce satellite veut aussi véhiculer des chaînes locomènes, vous voyez ce que je veux dire. Et la question est de savoir, est-ce qu'on investit ou pas? Et la réponse était clairement non. C'était un choix, et suite à cela, cette société, qui était en bourse, enfin, qui était une grosse structure, s'est dotée d'un RAV qui vient régulièrement et à qui on pose des questions qui touchent aux problématiques de l'éthique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste le problème de est-ce qu'on peut parce qu'on ne va pas être chômeur Shabbat, mais est-ce qu'on se donne cette liberté d'investir dans des choses sur lesquelles, en effet, on n'est absolument pas d'accord. Alors maintenant, vous allez dire, mais business is business, c'est là où se pose justement la question de l'Emouna, la question de la foi. Et je vais vous dire, c'est une incidence très simple. Et je me permets de vous dire un petit vartora là-dessus, puisque comme ça, on ne pourra pas dire que j'ai annoncé que j'allais parler et que je n'ai pas parlé. C'est très court. C'est très, très court. En réalité, je dis ça comme prétexte, parce que j'ai envie de vous dire. Donc, on a vu dans la parasha de la semaine, Hakol Kol Yaakov Hayadim, ça avait marqué comme ça dans le verset, la voix c'est la voix de Jacob, et les mains sont les mains de l'Esav. Ça, c'est lorsque Isaac reçoit son fils, et il dit, mais je ne comprends pas, c'est la voix de Jacob, mais t'as les mains de Esav. Le Maguid Mizouvna a donné une idée absolument géniale. Il dit à Kol Kol Yaakov, il dit parfois dans le peuple juif, tu as des gens dont la voix c'est la voix de Jacob. Traduction, ils prient, ils étudient. C'est extraordinaire. Vayadev, mais leurs mains, leur manière de gérer leur business, c'est exactement de la manière dont gère Esav. Et en effet, il faut qu'à un moment, il y ait une forme de cohérence. Quelqu'un qui te dit, mais si je ne le fais pas, alors comment je vais faire pour gagner ma vie? Il faut lui poser la question suivante. Est-ce que tu penses que Dieu a besoin pour te donner ce dont tu as besoin, que tu ailles à l'encontre de ce qu'il te demande? C'est pas simple, surtout lorsque la personne est confrontée à des choix qui sont lourds, dans lesquels elle a d'un côté une proposition extraordinaire et de l'autre côté quelque chose qui est beaucoup moins. Et c'est facile de dire, c'est beaucoup plus complexe de vivre. C'est pour cela que celui qui est capable de faire cela, c'est véritablement celui qui est grand. Et je me permets de conclure en vous rappelant que la première question qu'on demandera à quelqu'un après 120 ans, c'est pas de savoir s'il a bien fait Shabbat ou s'il a mis les téfilines. On lui posera la question. On lui demandera la sata de la tata de Emouna. As-tu fait ton commerce de Emouna avec foi? Alors certains pensent, est-ce que tu as embrassé la lesouza avant d'aller au business? Non, ça c'est des ambiances un peu. D'accord? C'est pas les saints reliques, hein, les autres. Nasata ou Natata Benouna, as-tu révélé que tu croyais dans la manière dont tu étais capable de gérer ton business au quotidien? Par rapport à ce que Jérémy disait tout à l'heure, il faut que je dirige les associations. Eh bien, la règle qu'on a toujours mis en place, et si je le dis, c'est pas pour dire nous, on le fait, on est des gens bien, mais pour partager, c'est de dire aux gens, imaginez-vous que ceux qui nous donnent les moyens de faire fonctionner soient face à nous. Est-ce qu'on ferait exactement la même chose? Si la présence de l'autre m'empêche de fonctionner de cette manière, c'est que sans doute il y a un problème. Si celui qui te donne l'argent était face à toi, est-ce que tu fonctionneras de cette manière dans la manière de gérer un projet? Si tu n'en es pas sûr, c'est que sans doute il y a un problème. C'est la même chose au travail. Si le patron était là maintenant, est-ce que je gérerai les choses de cette manière? Non. Alors dans ce cas-là, il y a lieu, à minima, de s'interroger. Voilà, en tout cas, je voulais encore remercier Jérémy, non seulement pour son enseignement, mais pour ce partage. Et je connais ses intense, il a besoin de toute cette aide, mais pour lui, c'était une joie de pouvoir partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Et maintenant, toutes les personnes qui ont réservé pour le cocktail peuvent venir au premier étage. S'il y a encore 10 ou 15 personnes qui veulent y aller, il y a encore 10 ou 15. S'il y en a qui veulent faire un film, avec plaisir.